18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver en direct sur Europe 1. On est parti pour deux heures d'infos, d'analyses, de rencontres aussi, vous allez voir. Il est la personnalité que tout le monde s'est arraché aujourd'hui. Le prix Goncourt 2019 et ce soir mon invité Jean-Paul Dubois pour son ouvrage « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Attention, ce romancier n'aime pas les interviews, il nous dira évidemment quelques mots à 18h20. Vous verrez, un peu plus même que prévu, et surtout comment il a reçu, accueilli ce prix. 18h30, les grandes voix du lundi. Charles Villeneuve, Michael Darmon, Gérard Carrérou dans ce studio. Policiers, pompiers, pourquoi cette violence après les attaques dans les Yvelines? Et puis à ne pas manquer toute cette semaine sur Europe 1 à 19h30. Derrière le mur, une série documentaire passionnante, vous allez voir, réalisée avec les archives exceptionnelles d'Europe 1 à l'occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Premier épisode ce soir à ne pas manquer. On vous explique tout dès 19h20. L'info qu'il vous faut, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Bonsoir Sébastien Krebs.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Et c'est donc jusqu'à 20h, bienvenue à tous.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Il s'agit d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui pensent que tout casser est une façon de faire avancer les choses.
Imbécile et irresponsable, dit le Premier ministre. Non, ce sont des criminels, rétorque la droite à propos des jeunes incendiaires de Chanteloup-les-Vignes après l'incendie donc de ce centre culturel samedi soir.
Le département des Yvelines qui promet de financer sa reconstruction à l'identique. Nous serons justement sur place et à 18h30, c'est en débat avec les grandes voix dans ce studio.
Dans l'actualité aussi ce soir, les dégâts de la tempête Amélie. Près de 20 000 foyers toujours privés d'électricité ce soir en Nouvelle-Aquitaine et dans le sud-est, le corps d'une retraitée retrouvée enseveli par un glissement de terrain.
Emmanuel Macron est arrivé en Chine, accompagné par une ministre allemande, visite dédiée au commerce et aux accents très européens.
La porte d'une cathédrale enfoncée à la voiture bélier, ça s'est passé la nuit dernière à Oloron-Sainte-Marie, dans le Béarn.
Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait réalisé. J'avais jamais connu ça pour une église. Ça fait attaque de banque, quoi.
Et c'est effectivement un trésor inestimable qui a été dérobé.
Et puis les premiers mots du Goncourt 2019.
C'est adorable et puis voilà, ça, je suis pas fait pour ce genre de choses. C'est pas mon univers, c'est... Voilà.
La discrétion de Jean-Paul Dubois, tout en demi-teinte, récompensé par le prix littéraire le plus prestigieux. Il sera avec nous, vous l'avez compris, juste après ce journal.
La Bourse de Paris termine en hausse de 1,08% à 5 824 points.
Et Anissa, un petit mal de gorge?
Oui, un petit chat dans la gorge. Beaucoup de pluie et de vent encore demain. Quelques régions auront la chance de voir le soleil. Je vous dévoile tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Était-ce une forme de surenchère entre cités? À qui fera le plus de dégâts? La question est clairement posée après plusieurs épisodes de violences urbaines ces derniers jours. Policiers attaqués au mortier et incidents et incendies volontaires. Dernière en date, ce chapiteau, centre culturel entièrement détruit par les flammes à Chanteloup-les-Vignes samedi soir, alors qu'une trentaine de jeunes affrontaient les forces de l'ordre. Épisode qui fait réagir jusqu'au Premier ministre Édouard Philippe.
Nous déplorons évidemment ces actes imbéciles et violents. Nous sommes parfaitement conscients de ce que les tensions qui se développent sont en partie liées à l'effort très intense que nous livrons s'agissant des trafics de stupéfiants. Mais nous sommes déterminés à faire en sorte que ces trafics puissent cesser et à faire en sorte que l'ordre puisse être rétabli. C'est donc un message de soutien aux élus locaux qui doivent affronter ces situations, mais aussi un message de fermeté à l'égard de la petite bande, car je crois qu'en vérité, il s'agit d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui pensent que tout casser est une façon de faire avancer les choses.
La phrase, les qualificatifs d'Édouard Philippe qui ont immédiatement fait réagir la droite, ce ne sont pas des imbéciles mais des criminels, ont répondu sur Twitter. Entre autres, Éric Ciotti et Bruno Retailleau chez Les Républicains. On y revient avec les grandes voix dans le détail à 18h30, Sébastien.
Et nous retournons sur place à Chanteloup-les-Vignes. Caroline Baudry, vous y avez passé la journée et une promesse a été faite par les élus locaux. Ce chapiteau sera reconstruit à l'identique dans moins d'un an.
Oui, ici devant le chapiteau ravagé par les flammes, le président des Yvelines, Pierre Bédier, prend cet engagement. Le département financera la structure, le matériel, environ 1 600 000 euros pour faire renaître le chapiteau.
Nous sommes prêts, nous, le département, à payer 100% pour lancer les travaux tout de suite de reconstruction du chapiteau à l'identique. On ne peut pas repartir sur un grand projet. Dans moins d'un an, il faut que ça soit fait.
Pour les parents, les enseignants du coin, c'est tout un symbole, celui du renouveau de Chantoulévine qui vient de s'écrouler. Des spectacles d'enfants tombent à l'eau. Ce cirque a été inauguré en 2018 avec Neouza Tomasi à la tête de la compagnie Contraire.
Je crois que toute la ville est en deuil. Les enfants, ils ont vu les familles par leurs fenêtres brûler leurs rêves, brûler leurs chapiteaux. Et ça, je crois qu'ils sont tous traumatisés en ce moment. Et ça, c'est moche.
Déjà, la ville vient de lancer un appel aux dons. Et puis le président du département compte débloquer une subvention exceptionnelle pour la commune. L'objectif, renforcer la sécurité en recrutant des policiers.
Caroline Baudry à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines pour Europe 1. S'agissant de l'enquête sur cet incendie, deux suspects, dont un mineur, ont été arrêtés et placés en garde à vue.
À Béziers également, il y a quelques jours, c'est une école là qui avait été incendiée.
Oui, c'était jeudi, au soir d'Halloween, une douzaine de salles endommagées, deux totalement détruites. Et la conséquence, eh bien, c'est que 250 élèves n'ont pas pu faire leur rentrée ce matin. Ils seront accueillis dans d'autres établissements du secteur. L'école, elle, doit être démolie et entièrement reconstruite. Un adolescent de 15 ans a été mis en examen pour cet incendie.
L'autre sujet, c'est la tempête Amélie qui a frappé l'ouest de la France ce week-end et qui a laissé beaucoup de dégâts.
Hein. Des routes coupées, des arbres arrachés après ces vents qui ont soufflé à plus de 160 km/h, au point que près de 20 000 foyers restent toujours ce soir sans électricité. Jeanne Bergaoui.
Effectivement, Enedis vient de communiquer un tout nouveau décompte, 18 500 foyers encore privés d'électricité ce soir. Des coupures qui concernent la Nouvelle-Aquitaine, principalement en Gironde, avec 9 000 maisons toujours impactées. Cela représente la moitié des foyers privés de courant. Le reste serait parti entre les Pyrénées-Atlantiques, la Dordogne, les Landes et le Lot-et-Garonne. Sur le terrain, les interventions se poursuivent, mais les vents et la pluie ralentissent les opérations des techniciens d'Enedis. Alors ce soir, seule la Charente-Maritime reste en vigilance orange crue et inondation. Cela concerne la Boutonne, unique rivière placée à ce niveau d'alerte. Par précaution, la maire de Saint-Jean-d'Angély vient de déclencher un plan inondation pour informer les habitants exposés à une possible montée des eaux, un risque de débordement qui va dépendre des précipitations dans les jours à venir.
Merci les précisions de Jeanne Bergaoui. Et dans le sud-est, cette fois, une retraitée de 71 ans qui était recherchée depuis hier a été retrouvée morte aujourd'hui. Elle a été ensevelie par un glissement de terrain dans son jardin à Nice.
Il est 18h06 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Il a promis d'y aller chaque année. Emmanuel Macron a atterri sur le sol chinois un peu plus tôt dans la journée.
C'est sa deuxième visite dans le pays, à Shanghai, déplacement aux enjeux principalement commerciaux. Et pas forcément que franco-français. Adrien Beck, vous suivez le chef de l'État qui est accompagné par une ministre allemande et c'est donc en représentant européen qu'il arrive en Chine.
Oui, comme si Emmanuel Macron voulait dépasser les enjeux économiques franco-français en accueillant les dirigeants de géants allemands comme Volkswagen, Siemens ou encore Nokia pour une discussion avec des patrons français en écoutant leurs doléances. Le chef de l'État espère incarner le message européen auprès de Xi Jinping. Il l'a dit tout à l'heure devant eux.
Je pense que c'était utile d'avoir peut-être un moment de coordination européenne. Plus on joue en franco-allemand et surtout en européen, plus on a de la crédibilité et des résultats.
Et pour quels résultats ? L'Europe ne parle pas toujours d'une seule voix face à la Chine. Angela Merkel elle-même n'avait pas fait le même geste lors de sa venue ici en septembre. Un grand patron français en sourit. On se retrouve tout cela, dit-il. Mais en réalité, chacun fait son business de son côté.
Adrien Beck, envoyé spécial d'Europe 1 à Shanghai.
À Marseille maintenant, les drapeaux ont été mis en berne pour marquer, vous en souvenez, le premier anniversaire, ce sera demain, du drame de la rue d'Aubagne.
Deux immeubles s'étaient effondrés. Demain, 8 minutes de silence seront observées en mémoire des 8 victimes. Mais le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, a annoncé qu'il ne s'y rendrait pas, sa présence, dit-il, n'étant pas souhaitée. Nous y serons dans le journal de 19h.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre édition, le Goncourt 2019 attribué à Jean-Paul Dubois après un vote serré contre Amélie Nothomb. Il sera là dans ce studio à 18h20. En tout cas, vous l'entendrez. On en parle aussi avec Nicolas Caro.
Et puis une voiture bélier pour enfoncer la porte d'une cathédrale classée. Ça s'est passé à Oloron, près de Pau. Le trésor a été dérobé. Nous y serons.
Et votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est jusqu'à 20h.
Sur Amazon pour les fêtes de fin d'année, trouvez les cadeaux parfaits pour faire le bonheur des enfants. Juste, attendez-vous à plus de...
Je peux l'ouvrir.
Profitez des prix bas et de la livraison gratuite sur les articles comme la Fabrique à Histoire Luni, la peluche plume Le Panda Curieux et le chapeau magique d'Harry Potter. Sur Amazon, trouvez les cadeaux préférés des enfants. Voir conditions sur Amazon.fr.
Chez Volkswagen, comme nous tenons à nos clients, nous avons donné la parole à leur maman. Comme Sidonie, qui a un message pour son fils Paul, 50 ans.
Mon poussin, c'est maman, pour te dire de ne pas faire de bêtises. En été, tu roules en pneu été et l'hiver en pneu hiver, c'est pas compliqué. Alors prends rendez-vous sur Volkswagen.fr, c'est sur Internet. Et mets bien ton bonnet, hein.
Paul, profitez-en. Jusqu'au 13 décembre, le pneu hiver 16 pouces est à partir de 69 € avec 3 ans d'assurance offerts. Conditions et devis sur Volkswagen.fr.
Auchan, et la vie change. Il y a des crèmes étonnantes qui vous font rajeunir. Et pendant les 100 jours étonnants Auchan, il y a des crèmes encore plus étonnantes, comme la crème Nivea Q10 Power avec 70% en cagnotte.
Jusqu'à demain, vos magasins Auchan proposent 70% en cagnotte sur le lot de deux soins anti-rides Q10 Power Nivea, soit 5,09 € cagnotte déduite au lieu de 16,98 €.
Auchan.
Lot de 2 x 50 ml, différentes variétés, montant crédité sur votre compte Wahoo, conditions en magasin sur Auchan.fr.
18h09 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Il sera mon invité dans quelques minutes, juste après ce journal. Donc ne bougez pas, Jean-Paul Dubois, récompensé aujourd'hui par le prix Goncourt.
Qui va forcément faire de lui la star des librairies en cette fin d'année. Bonsoir Nicolas Carreau.
Bonsoir.
Jean-Paul Dubois, récompensé pour son roman « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », publié aux éditions de l'Olivier, le choix de l'Académie, donc après un vote serré.
Oui, les deux étaient favoris, mais effectivement, ça s'est joué à rien. 6 voix pour Jean-Paul Dubois contre 4 pour Amélie Nothomb. Ce qui a fait pencher la balance, c'est la fiction. Le Goncourt est censé récompenser une œuvre purement fictionnelle. Et pour Françoise Chandernagor, membre du jury, un seul roman correspondait au cahier des charges.
C'est le choix qui correspond probablement le mieux au testament d'Edmond Goncourt, œuvre d'imagination en prose, c'est ça qu'il demandait qu'on couronne. Or, en fin de compte, sur les 4 livres qu'on avait sélectionnés, un seul était un livre d'imagination.
On a envie de leur dire, pas mettre les autres dans la sélection dans ces cas-là. Mais bon, c'est un très beau Goncourt. Jean-Paul Dubois est l'auteur d'une belle et grande œuvre, très suivi par ses lecteurs. C'est un couronnement. Et son dernier roman, « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » aux éditions de l'Olivier, est sublime. C'est d'ailleurs la première fois que cette maison d'édition obtient le Goncourt.
Et Nicolas, le jury a aussi décerné le Renaudot aujourd'hui, avec une surprise, un lauréat qui ne figurait pas dans la liste des finalistes.
Oui, c'est donc Sylvain Tesson pour La Panthère des Neiges chez Gallimard. Très beau livre aussi, mais qui n'était pas effectivement dans la sélection. Alors, c'est pas la première fois que le Renaudot fait le coup. Quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils vont tout simplement chercher ailleurs. Voilà.
C'est bien la peine de faire des listes de finalistes, du coup. Merci Nicolas Carreau, spécialiste littérature d'Europe 1.
Jean-Paul Dubois, juste après ce journal Le Goncourt 2019, donc à ne pas manquer. Sébastien, d'abord, on fait un petit détour par Oléron-Sainte-Marie.
Oléron, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, commune sous le choc, car la nuit dernière, c'est la cathédrale classée à l'UNESCO qui a été pillée. Un trésor inestimable dérobé. Benjamin Peter, vous êtes sur place. Les malfaiteurs ont enfoncé la porte à la voiture Bélier.
Oui, c'est à l'aide d'un tronc d'arbre, un chêne plus exactement installé dans le coffre, que ces cambrioleurs ont fait sauter la serrure de cette porte latérale de la cathédrale. Ils ont ensuite scié les barreaux qui gardaient le trésor et se sont emparés de reliquaires, d'objets d'orfèvrerie et de vêtements sacerdotaux datant du XVIe siècle. Et pourtant, le maire, Hervé-Luc Béreil, pensait ces objets de valeur suffisamment protégés.
Nous, on pensait que les portes telles qu'elles sont à la cathédrale, les grilles qu'on avait mis en place, les vitres qui étaient anti-intrusion, plus l'alarme, il nous semblait qu'on était à peu près correct quoi, en termes de sécurité. Eh bien, il faut croire que ce n'était pas suffisant.
Le père Jean-Marie Barène, le curé de la cathédrale, est encore sidéré par le mode opératoire des voleurs.
Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait réalisé. Je n'avais jamais connu ça pour une église. Ça fait attaque de banque, quoi. Ce sont des objets de culte donc, qui ont été consacrés. C'est le patrimoine en même temps. Beaucoup d'éléments qui font qu'on est attristé. C'est quand même un genre d'attaque auquel on n'est pas habitué à Oloron, quoi.
Alors, eux sont persuadés qu'il s'agit de professionnels qui savaient ce qu'ils cherchaient. Le véhicule qui a servi à enfoncer la porte a été retrouvé, mais les voleurs ont pu prendre la fuite à bord d'un second véhicule et sont toujours recherchés par les gendarmes.
Benjamin Peter en ligne d'Oloron-Sainte-Marie pour Europe 1.
Paris 2024, les Jeux Olympiques se préparent. Le premier coup de pelleteuse a même été donné aujourd'hui même.
Et en présence d'une bonne partie du gouvernement, en début des travaux de démolition, là où sortira de terre le village olympique. Il y en a pour 3 ans de travaux, hein, Axel May, à la lisière de 3 communes de Seine-Saint-Denis, Saint-Ouen, Lille-Saint-Denis et Saint-Denis.
Oui, des premiers travaux très symboliques avec une belle pelleteuse, toute blanche, toute propre pour les caméras, détruisant un morceau de hangar devant les yeux du Premier ministre. Auparavant, Nicolas Ferrand, directeur de la société de livraison des ouvrages olympiques, lui avait présenté une maquette du futur village de 51 hectares.
On doit accueillir 15 615 athlètes, et puis après les Jeux, ce sera du bureau, ce sera des logements. Ça veut dire que le bâtiment aura plusieurs vies.
C'est le fameux héritage que veulent laisser les organisateurs des JO. Attention à ce que ce ne soit pas juste une opération de communication, prévient Denis Masseglia, le président du CNOSF, le comité olympique français, demande aussi un budget des sports à la hauteur des ambitions.
Nous, on est des gens respectueux, on ne menace pas, on ne défile pas dans la rue, on ne fait pas grève, on est au service de la population. Je trouve que la reconnaissance qui nous est témoignée n'est pas à la hauteur de l'engagement qui est le nôtre.
Quant au village olympique, après la phase de démolition des bâtiments déjà existants, les travaux de construction, eux, ne débuteront qu'en 2021 pour une livraison prévue au premier semestre 2024.
Axel May du service des sports d'Europe.
Et on se retrouve, nous, Sébastien, à 18h30 pour un nouveau point complet sur l'info. Merci à vous.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de piscine. Rénoval vous présente la météo.
De très fortes intempéries ont touché la France le week-end là, qui vient s'écouler, Anissa.
Oui, et cet épisode pluvieux et venteux, cette tempête Amélie, elle est en train de quitter le pays par l'Est, Nathalie. Donc demain, c'est en Corse que les averses seront les plus importantes, avec même des coups de tonnerre et du vent jusqu'à 70 km/h. C'est vraiment pas une chouette journée hein, demain qui vous attend sur l'île de Beauté. À l'arrière de cette perturbation, sur le reste du pays, c'est un ciel de traîne qui s'installe, avec donc des éclaircies qui alternent avec des averses. Une journée très automnale, une journée bien grise. Sur la façade ouest, de l'Aquitaine au Midi-Pyrénées, en allant même jusqu'au Limousin, là, il pleut dès le lever du jour demain avec des averses qui dureront toute la journée. Sur le centre, le massif central et les Alpes, même jusqu'au Jura, c'est là que les précipitations arriveront dans l'après-midi. C'est au nord en fait, en Picardie, en Alsace, en Normandie, en Bourgogne, en Franche-Comté, c'est là que la journée sera la plus belle. Une journée calme, pas de pluie et de belles périodes ensoleillées. Le long de la Méditerranée, soyez très prudents, le vent souffle demain, la tramontane qui se lève jusqu'à 90 km/h. Les températures, elles sont stationnaires, on aura quasiment les mêmes qu'aujourd'hui. 5 à 16 degrés le matin, 8 pour Paris, au meilleur de la journée. 9 degrés demain après-midi à Rodez, c'est frais. Hein. 11 au Puy-en-Velay, 12 à Saint-Etienne, Lille, Clermont-Ferrand et Paris. 15 à Bordeaux, 18 à Marseille. Et le plus chaud, ça sera pour la Corse, 21 degrés à Bastia.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et le prix Goncourt revient à Jean-Paul Dubois. L'auteur de Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon a été distingué aujourd'hui pour son roman sur l'échec, l'art de gâcher sa vie et la manière dont les morts nous accompagnent. Dans les pronostics, il était au coude à coude avec Amélie Nothomb. Il est mon invité dans moins de 2 minutes.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. L'écrivain Jean-Paul Dubois a reçu aujourd'hui le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires pour son 22e roman « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » aux éditions L'Olivier. Un roman bouleversant et nostalgique sur le bonheur perdu. Le lauréat 2019 est votre invité.
Bonsoir Jean-Paul Dubois.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous n'aimez pas les entretiens, vous n'aimez pas les interviews. Rassurez-vous, cela va durer moins de 10 minutes. Quel est le sentiment d'un homme, d'un écrivain qui vit dans l'inquiétude au moment où vous avez entendu tout à l'heure votre nom à l'annonce du prix Goncourt ?
Ah, je n'ai pas entendu mon nom. J'étais en train de manger une gaufre et de boire un café. Et je n'avais aucune inquiétude parce que je n'envisage jamais les bonnes hypothèses. Donc je n'avais aucune inquiétude et j'ai vu mon éditeur rosir de plaisir et de bonheur, m'embrasser. Donc j'ai compris que quelque chose d'agréable venait d'arriver, mais je n'étais pas inquiet.
Mais vous aviez quand même fait le déplacement de Toulouse à Paris. On vous a extirpé peut-être, mais en tout cas vous êtes venu. Vous n'êtes pas préparé à aucun moment à cette journée ou comment l'avez-vous fait si c'est le cas ?
Jamais, jamais. Si j'ai mis la montre de mon père, qui est une montre... qu'il avait quand il était vivant, voilà. C'est peut-être le seul signe distinctif de préparation. Mais je n'envisage rien, c'est jamais calculé, quoi.
Alors c'est pas
ça
calculé.
Ça fait partie des règles du jeu.
Ouais. C'est pas calculé, Jean-Paul Dubois, mais comment vous sentez-vous ? Vous avez dit que votre éditeur avait rosé de plaisir, et pour cause, vous avez ressenti ce plaisir ? Vous êtes resté placide, là encore ?
J'ai ressenti, j'ai été infiniment heureux de le voir comme ça et j'ai été aussi heureux de penser à tous les gens à qui ça allait faire plaisir, des gens que j'aime ou qui ne sont plus là et qui auraient aimé voir ça. Et puis moi, je me sens comme le porteur de ce truc-là, mais c'est lointain pour moi, quoi. C'est virtuel, c'est quelque chose de, voilà, qui est là aujourd'hui et qui disparaît demain et puis la vie continue et avec quelques modifications, bien sûr, ça change rien.
Avec quand même quelques modifications, vous faites bien de le dire, parce qu'on sait combien vous êtes pressé de retourner à Toulouse dans votre quotidien. Vous aimez votre liberté que vous placez au-dessus de tout. Mais le Goncourt en poche, vous craignez effectivement que cela entache en quelque sorte votre liberté ?
Ah, pas du tout, non, au contraire. Moi, je... tout ça est découplé. La liberté, c'est une chose. Le goût de la liberté, c'est quelque chose qu'on a en soi. Et puis tout ce qu'on peut vous faire de choses, toutes les choses agréables qu'on peut vous offrir ne font qu'ajouter à cette liberté. C'est jamais, c'est pas le Goncourt ou autre chose. Mmh. C'est le Goncourt et la liberté. Voilà, on m'a fait l'honneur, la gentillesse de m'offrir ça. C'est comme à Noël. C'est pas le train électrique ou la boîte magique. Mmh. C'est les deux à la fois. Donc je pars avec le train électrique et la boîte magique.
Vous avez dit sur France Culture, nos camarades, je vis dans l'inquiétude et je vais mourir dans l'inquiétude. J'écris donc sur cela. C'est ce que vous avez cherché une fois encore à écrire dans cet ouvrage « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » aux éditions L'Olivier. Paul, votre héros, les critiques ont souligné votre humour. C'est une façon de dédramatiser la vie de Paul et la vôtre, Jean-Paul Dubois ?
Je peux pas vous répondre parce que j'ai toujours vécu comme ça. J'ai été entouré de gens comme ça. Je ne vis qu'avec des gens qui ont cet accessoire formidable qu'est l'humour dans la vie. Mon père était comme ça. Mmh. Les gens, j'ai été élevé comme ça. Donc ça fait partie de ma vie, tout en sachant que c'est un accessoire indispensable, mais qui ne préserve de rien.
Jean-Paul Dubois, un mot peut-être sur Amélie Nothomb qui passe à côté pour la troisième fois. Vous croyez que c'est parce qu'elle est, je sais pas, peut-être trop populaire d'une certaine manière ou à chaque fois donné ultra favori ?
Je ne peux pas vous répondre à une question comme ça. Moi, je n'ai pas d'élément d'appréciation. Je n'ai jamais été juré et je pense que je ne le serai jamais. Je suis certain que je ne le serai jamais parce que je n'ai pas je n'aurai pas le courage de faire de la peine à quelqu'un. Donc je serai parfait pour élire quelqu'un, mais je ne serai pas. Je serai minable pour éliminer les autres. Donc ne me demandez pas pourquoi Madame Nothomb n'a pas eu un prix.
Vous avez un mot pour elle, peut-être ? Vous l'avez lu, vous la connaissez bien sûr. Vous avez un mot pour elle ?
Non, je la connais pas du tout. Non. On se connaît pas, on vit pas dans les mêmes villes. Mmh. Et le seul mot que j'ai, c'est je suis navré pour elle et j'espère que si ça lui tient à cœur, elle aura le plaisir d'avoir ça un jour. Mmh. C'est tout ce que je peux vous dire.
Mmh. Évidemment, on pense à votre père, il a été emporté par une maladie cardiaque, vous l'avez cité, vous aviez sa montre aujourd'hui. Cette satisfaction, malgré tout, on l'a vu, tout en pudeur, on l'entend dans vos mots ce soir, mais cette satisfaction, quand vous pensez à lui, quand vous pensez aussi aux milliers de lecteurs qui vous suivent depuis des années, les Duboisiens en quelque sorte, là, la satisfaction, elle est franche, Jean-Paul Dubois ?
C'est plus intime. C'est voilà, ça me fait énormément de plaisir. Mais c'est un plaisir qui ne se communique pas, c'est quelque chose de profond. C'est quand vous sentez, moi ce qui m'étonne le plus, c'est de ressentir autant parfois de bienveillance. Voilà, ça me touche. L'aspect littéraire, c'est autre chose. Mais des gens qui partagent un point de vue, qu'un sentiment, une émotion, un truc comme ça, c'est précieux. Voilà, et mon père fait partie de ces gens qui m'ont accompagné. Et qui m'accompagneront toujours. Et voilà. Et c'est pour ça que je dis tout le temps qu'on vit avec des morts. Moi, j'ai la chance de vivre avec eux. Mmh. Et je pense que ce sont eux qui m'ont donné le peu que j'ai, le peu qu'on me reconnaît aujourd'hui.
Un mot encore, Jean-Paul Dubois. Vous avez dit entre un livre et une paire de chaussures, je choisis la paire de chaussures. Entre un Goncourt et une paire de chaussures, vous choisissez quoi aujourd'hui?
j'ai dit ça, j'étais un adolescent prépubère, j'imagine. Mais ça dépend. Non, je n'ai aucune mémoire, mais je pense que la citation est tronquée. C'est pas du tout ce que j'avais dit.
Non, ça,
je crois que
ça commençait.
Non, ça m'arrange pas, ça commençait partant de pluie, je préfère une bonne paire de chaussures qu'un livre, je sais plus ce que c'était. C'est une question, c'est compliqué, partant de pluie, réfléchissez, je vous donne le choix entre les deux, vous allez prendre la paire de chaussures. Mais ça se résume pas comme ça, partant de pluie, aujourd'hui, je préfère les deux, je préfère avoir une bonne paire de chaussures et le Goncourt dans la poche, parce que c'est adorable de leur part, quoi.
Merci à vous et c'est adorable de nous avoir accordé ces minutes précieuses, Jean-Paul Dubois. On vous laisse.
Ça a été un plaisir.
On vous laisse. Merci infiniment, Jean-Paul Dubois. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon aux éditions L'Olivier. Le Goncourt 2019. Merci à vous.
Au revoir.
Europe 1. Vous écoutez votre grand journal du soir à suivre, Nathalie Lévy.
Ils sont là dans ce studio, pratiquement au complet, les grandes voix qui trottent ce soir. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Michaël Darmon arrive dans une seconde. Bonsoir à vous, bienvenue messieurs. Le rappel des titres, c'est Sébastien Krebs aux commandes dans une seconde. De quoi allons-nous parler? Évidemment de ces violences, n'est-ce pas messieurs? Les Yvelines, Chanteloup, Lévin précisément, ces violences persistantes contre les policiers, aussi contre les pompiers. Comment faut-il lire ces événements événement. La réponse du gouvernement est-elle à la hauteur? Les qualificatifs aussi du gouvernement sont-ils à la hauteur? On en débat dans un instant. D'abord l'info avec Sébastien Krebs.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Sébastien Krebs est à mes côtés pour l'information.
Édouard Philippe dénonce, je cite, une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables. La droite lui rétorque qu'il vaut mieux parler de criminels après les violences urbaines et l'incendie d'un centre culturel à Chanteloup-les-Vignes samedi soir. Le département des Yvelines promet de financer sa reconstruction à l'identique. Emmanuel Macron a posé le pied en Chine, à Shanghai, capitale économique, pour une visite dédiée au commerce et aux accents très européens. Il est accompagné d'une ministre allemande et d'un commissaire de Bruxelles. À la SNCF, le travail a repris dans les centres de maintenance, indique la direction. Prévision de trafic confirmée, 90% des TGV circuleront toute la semaine sur le réseau Atlantique. Après les intempéries du week-end, le corps d'une retraitée de 71 ans retrouvée, ensevelie dans son jardin à Nice après un glissement de terrain. Ce soir, 18 000 foyers sont toujours privés d'électricité dans l'ouest. La Charente-Maritime reste en vigilance orange, crue et inondation. Et puis vous venez de l'entendre sur Europe 1, le lauréat du prix Goncourt 2019, Jean-Paul Dubois, estime qu'on ne mérite jamais cette récompense mais qu'on a tout simplement la chance de la recevoir. Il est primé pour tous les hommes, n'habitent pas le monde de la même façon. C'est aux éditions de l'Olivier.
Merci Sébastien, l'info revient avec vous à 19h précisément.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Anissa, ça va souffler encore demain ?
Oui, encore Nathalie. Demain sur la Bretagne, la Manche, l'Aquitaine, sur le littoral méditerranéen et la Corse, le vent souffle fort demain. C'est un vent d'ouest, sud-ouest même, avec des rafales jusqu'à 90 km/h. Ça c'est pour la tramontane sur le littoral méditerranéen. Partout ailleurs, 80-90 km/h. Donc soyez prudents. Sur la Corse, beaucoup de pluie demain qui accompagne ce vent, avec même parfois des coups de tonnerre. Donc soyez très prudents en Corse. Demain, la journée va être vraiment très maussade. Sur la Picardie, la Bourgogne, l'Alsace, là le temps est sec avec des éclaircies. Partout ailleurs, eh bien, c'est une journée mitigée, une vraie journée d'automne partagée entre averses et éclaircies. Les températures, 5 à 16 degrés le matin du nord au sud. Il fera 12 degrés demain après-midi à Paris, 15 à Bordeaux, 18 à Marseille et 21 à Bastia.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Vous êtes entourée des grandes voix.
Oui, ça y est, ils sont trois. Ils sont dans ce studio installé. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon. Et vous, les auditeurs qui pouvez les interpeller au 39-21. On va bien entendu revenir sur ces événements dans les Yvelines, ces violences. Parce que sur place, à Chanteloup-les-Vignes, seront présents demain Nicole Belloubet, Christophe Castaner et Julien de Normandie. On se dit tout dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Mickaël Darmon, vous pouvez les interpeller. N'hésitez pas au 39-21 et sur Twitter, hashtag Europe 1.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue évidemment, on démarre la semaine avec les événements à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Depuis deux mois, il faut le rappeler, des actes de dégradation se sont intensifiés dans ce département. Samedi soir, c'est un chapiteau de cirque qui a été incendié. Au-delà du cirque, c'est un bâtiment culturel emblématique de la ville, inauguré il y a tout juste un an, qui s'est embrasé. Caillassage de policiers et de pompiers au passage, si je peux me permettre cette expression, mais c'est pour dire à quel point les choses sont tendues. Et évidemment, les mots du gouvernement qui ont suivi Édouard Philippe, notamment Christophe Castaner dans la foulée, qui parle de petites bandes d'imbéciles et d'irresponsables. Gérard Carrérou, quelle lecture faites-vous de ces événements et de ces mots employés par le Premier ministre ?
Alors d'abord, je constate qu'il y a quand même ce qu'on pourrait appeler un vent très mauvais qui souffle en ce début d'automne sur la France. On a là quand même, parce que on va parler, effectivement, je vais parler moi-même dans une seconde de Chanteloup, mais on pourrait aussi parler un peu plus longuement, peut-être le fera-t-on, de Béziers, où il y a quand même 300 gosses qui sont sans école, une école entière qui est condamnée à être reconstruite. On voulait la réparer au départ, on avait pensé, il faudra la reconstruire. Là, on est à Chanteloup. Chanteloup, c'est pas n'importe quoi. C'est un endroit dont on avait beaucoup parlé, il y a 20 ou 30 ans, mais il se trouve justement que c'est une banlieue où des efforts absolument énormes ont été faits pour détruire des immeubles de grande hauteur ou effectivement qui donnaient des asiles très favorables aux dealers de drogue, etc. Où on avait construit ce beau bâtiment qui était un bâtiment symbole culturel, mais qui organisait aussi du cirque, des jeux pour les enfants, etc. Il y a donc, qu'est-ce qu'il y a eu ? Je ne veux pas être trop long, mais il y a quand même eu pendant deux heures une quarantaine de jeunes, très jeunes pour certains, probablement quelques meneurs un peu plus âgés, qui a fait une véritable embuscade, un guet-apens contre la police. Il y avait 9 policiers contre 40 émeutiers. Et alors quand j'entends, et je finis là-dessus, quand j'entends le Premier ministre
parler d'une petite bande,
je trouve qu'on se fout du monde, littéralement, quand on est Premier ministre de la République et qu'on parle, on a l'impression qu'il parle d'une petite bande de gentils garçons, là, d'imbéciles, crétins, etc. Mais c'est pas des crétins, des imbéciles, ce sont des émeutiers, ce sont des criminels qui détruisent. Il serait temps d'imaginer un peu des méthodes de sécurité et de police,
alors,
plutôt que de se contenter de constater.
Ils vous ont peut-être entendu, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve, je vais vous donner la parole, bien sûr, parce que, allez, admettons qu'ils aient sous-estimé, demain, ils seront sur place, peut-être pour réparer, on va voir quelle lecture vous en faites. Nicole Belloubet, Christophe Castaner, Julien de Normandie, demain matin, à Chanteloup-les-Vignes, parce qu'évidemment, depuis ces appellations, ces qualificatifs utilisés, c'est évidemment une volée de bois vert, si j'ose dire, que le gouvernement a reçue.
Oui, mais il faut savoir que la cause de tout ça, si vous voulez, c'est toujours le même piège qui est tendu, notamment aux forces de sécurité. C'est toujours le trafic de drogue. C'est en réalité, ne serait-ce que très souvent, ça se passe toujours selon le même scénario, voitures brûlées pour attirer les voitures de police, pour les détourner, pour une embuscade d'abord, hein, toujours une embuscade, et systématiquement, ils se retrouvent en minorité face à une bande de 30 à 40, je crois que c'est ça, hein, c'est ce que tu as cité. Bon, tout ça pour détourner du véritable objectif, c'est-à-dire de l'économie souterraine qui sous-tend la plupart, parce que là, on a parlé Chanteloup-les-Vignes, mais c'est vrai au Mureaux, c'est vrai à Grigny, c'est
à
vrai
Mont,
partout, exactement. D'ailleurs, autant de banlieues où il y a eu des efforts, notamment sur le plan de l'architecture, qui ont été faits. Bon, les maires, car c'est les maires qui sont en première ligne, c'est pas les ministres qui vont aller demain, c'est les maires qui sont en première ligne. Et il faut savoir ce que un certain nombre de maires, on a eu des dialogues aussi bien Michael Darmon que moi tout à l'heure avec Carl Olive, le maire de Poissy, qui lui a un dispositif au point, assez au point. Je ne vais pas parler de mon frère, par exemple, à Mandelieu, qui a le même dispositif. C'est-à-dire que ce sont des maires amateurs, professionnels aujourd'hui d'un couple, prévention-répression. On ne peut pas dissocier le couple. Prévention, c'est-à-dire on va voir des grands frères, la bande, on dit vous voulez un local, on va vous subventionner un local de 200-300 mètres carrés, on va installer, on va vous léguer des moniteurs, par exemple, d'arts martiaux, de boxe, etc., pour essayer de capter votre violence, de la maîtriser, de comprendre un peu les conséquences que ça peut avoir. Et puis, saccage, toujours. Incendie, saccage. Et dernièrement, par exemple, deux jeunes gens de 17 et 18 ans ont brûlé toutes les installations à Poissy. Le maire, qu'est-ce qu'il a fait?
Alors,
c'est très simple, il a retiré les subventions. Ça, c'est la première décision. Mais la deuxième décision, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi une réponse pénale. Or, ils sont ressortis du commissariat après une nuit passée. Avec quoi? Avec un rappel à la loi.
Alors, Michael Darmon, qu'est-ce qui se passe? Impuissance générale, alors, si j'entends Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, qu'est-ce qui se passe?
Impuissance générale, moi, ce qui me frappe, pour prolonger, c'est le désespoir qu'on entend depuis ce matin, notamment par la voix de Catherine Arenoux, de, effectivement, la maire
de Chanteloup-les-Vignes,
mais également de toute l'équipe du département des Yvelines, parce qu'il faut savoir que ce sont eux qui ont financé donc, cette arche donc, de cirque, ce centre culturel. Et d'ailleurs, c'est le département qui va encore, et qu'il a annoncé aujourd'hui, qu'il va remettre encore plus d'un million d'euros pour reconstruire à l'identique.
Bon,
certes, ils ont beaucoup d'argent, mais quand même. De ce point de vue-là, on voit bien que les politiques publiques, elles sont laissées aux élus locaux. Demain, 3 ministres vont se rendre sur le terrain. Parfait. Pourquoi faire? Pour être devant les caméras. Parce qu'en réalité, l'impuissance publique se manifeste à la fois par la manière, effectivement, et je ne voudrais pas qu'on passe le temps à parler du mot du Premier ministre, parce qu'effectivement, il est pas heureux, c'est vrai, mais surtout, il faut passer du temps à interpeller ces pouvoirs publics sur qu'est-ce qu'on fait, quelle politique publique. Les problèmes qui sont aujourd'hui signalés par Catherine Arenoux, ils le sont depuis 1993 par Pierre Cardo au même endroit.
Mais, et alors, qu'est-ce qu'on
c'était
fait
de... son adjointe.
Oui, mais alors,
rien n'est été fait. 1993-2019, même situation.
Non, mais cela
attendez,
Michael.
On s'en reparle juste dans un instant. Non, on se retrouve dans une seconde, Charles.
Et vous pouvez interpeller les grandes voix et réagir en direct. N'hésitez pas, ça se passe au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h. Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Mickaël Darmon. Vous pouvez interpeller les grandes voix, n'hésitez pas à réagir. Ça se passe dès maintenant en direct au 3921.
Évidemment, on revient sur les événements de ce week-end dans les Yvelines, à Chanteloup-les-Vignes précisément. Catherine Arenou, vous la citiez, Mickaël Darmon, elle disait « Ce sont 20 à 30 jeunes qui pourrissent la vie de ses habitants. 95% de nos jeunes réussissent quelque chose, un métier, une passion. Tout se fait au niveau de l'éducation. » Vous disiez, vous, Charles, que c'est répression avant tout, et c'est comme
non,
ça.
Je dis, c'est d'abord prévention,
répression.
Que le couple est indissociable. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier non plus la politique du bâton systématique et uniquement, ça ne paye pas, ce n'est pas vrai. Il y a des endroits où ça a marché, la prévention, les avertissements, le fait d'alléger les allocations familiales, d'intégrer les parents, si vous voulez, dans la réponse pénale aussi, c'est important. Mais il est bien évident que l'éducation est essentielle et très importante sur ce plan-là. Et des fois, ça marche. Il ne faut pas croire que ça ne marche pas du tout. On ne parle de toute façon que ce qui émerge, notamment sur le plan de la violence. Mais il y a des endroits où ça marche.
Alors juste, effectivement, la question des parents, quid de ces parents, parce que ce sont des gamins pour la plupart d'entre eux. Je voudrais juste qu'on prenne Bertrand depuis Strasbourg qui nous appelle au 3921. Évidemment, je vous donne la parole juste après, Jean-Réro Mickaël Darmon. Bonsoir Bertrand, vous nous appelez depuis Strasbourg.
Bonsoir et bienvenue à vous. Et bonsoir les grandes voix.
Bonsoir. Bonsoir.
Je ne suis pas d'accord avec Charles Villeneuve, pas tout à fait en tout cas. Je souhaite nuancer son propos. Le symptôme de l'échec patent des politiques publiques ou des politiques de la ville depuis 40 ans éclate pas au grand jour, il est connu. Gérard Collomb avait prévenu que nous étions passés d'un côte à côte à un face à face, c'est-à-dire
non,
à une défiance
passer.
De l'autorité publique.
Qu'on pourrait
non,
passer.
On est passé. Non, il faut voir les choses clairement. Nous sommes dans la défiance de l'autorité publique systématique. C'est rien d'autre que ce qui se passe. Dans le mot émeute, il y a le mot meute. Le mot meute, c'est ce que nous voyons. Ce sont des gens qui, en un mot, ils font de la prédation sur un territoire qu'ils s'approprient en détruisant tout ce qui peut empêcher, contrarier l'instauration de leur système social basé en particulier, pas seulement, sur une économie souterraine illicite. Les barbares imposent leurs lois pour faciliter leur système de prédation. Voilà ce qui se passe. Mais cette dérive a été rendue possible par la restauration du Fédus.
On vous entend, Bertrand, on débat. Mickaël Darmon, allez-y.
Ce qui est frappant, pour prolonger ce qui est dit par Bertrand et ce que l'on dit dans ce studio, ce qui est frappant, c'est au fond cette espèce de d'engrenage. On glose depuis plusieurs jours pour en disant, certains disent, les gilets jaunes, c'est terminé. Eh bien, moi, je pense que non. C'est en train d'infuser sur un autre territoire que l'on a peut-être moins vu en action pendant l'année dernière, mais qui est en train de s'inspirer de cette capacité maintenant à dire on va casser du flic, on va casser tout ce qui représente l'autorité républicaine, tout ce que l'autorité publique, et
encore
on va
chose,
dégrader. Mais c'est une mécanique, parce que quand on parle avec les élus locaux, ils nous le disent depuis plusieurs jours. Une sorte d'impunité liée à ce qui s'est passé.
On a eu aujourd'hui quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a eu comme une espèce d'esquisse de double convergence. On a d'un côté, et je parle là du terrain social, des grèves qui s'annoncent pour le début
décembre,
on a tout d'un coup le leader de la CGT qui dit « Bienvenue aux Gilets jaunes » qui ont fait savoir qu'ils étaient prêts à se joindre. Donc on a là une espèce d'esquisse de convergence sur le terrain social. Là, nous avons une convergence qui s'esquisse ou qui s'est déjà largement manifestée sur un autre terrain, c'est le terrain des quartiers. Cette convergence sur le terrain des quartiers, c'est la convergence entre l'économie de la drogue, les petits délinquants et tout ce qui tourne autour, les gosses de 10 ans à qui on donne un billet de 50 pour faire le guet, ou à qui on ou les parents qui touchent un peu d'argent pour garder effectivement la drogue chez eux, etc. Et convergence avec quoi? Avec le communautarisme islamique. Superposé dans la région parisienne, la carte, effectivement, de ces foyers de délinquance de la drogue et les foyers de délinquance islamique et de communautarisme islamique, vous verrez, on est donc là devant un cocktail explosif, et c'est pas, alors vraiment, c'est pour ça que je me suis indigné des propos du Premier ministre, que j'estime, qui d'habitude tient des propos mesurés et plutôt intelligents. Là, franchement, il a vraiment perdu une belle occasion de se taire.
Nathalie, je voudrais, justement, à propos de ce qu'a dit Bertrand, qui était intéressant, il a dénoncé la politique de la ville, les politiques publiques de la ville. Moi, j'insistais simplement, et c'était ma nuance, sur les efforts de maires qui, eux, sont en première ligne et dont certains ont quand même réussi à pacifier leur zone. Donc, moi, ça m'irrite le systématisme, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça que je voulais signaler, justement, ces réussites-là. Il y en a. Ça ne veut pas dire que ils vont réussir partout, mais ça existe.
On continue d'en parler également, ce sondage qui donne au coude à coude Marine Le Pen, Emmanuel Macron, vous l'avez tous vu. On va le commenter dans un instant.
Et vous pouvez vous aussi réagir en direct. N'hésitez pas, ça se passe au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Mickaël Darmon et toutes vos réactions en direct. N'hésitez pas, ça se passe au 3921 et sur Twitter, hashtag Europe 1.
Évidemment, on est allé longuement sur Chanteloup-les-Vignes parce que les événements, et on le voit, mobilisent encore le gouvernement qui sera sur place demain matin. Ces violences et ces caillassages de policiers et de pompiers. Christophe Castaner, Nicole Belloubet et Julien Normandie seront sur place demain matin. Je voudrais qu'on commente aussi le sondage paru dans le journal du dimanche hier, avec un écart qui se resserre, voire un coude à coude clair entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si on jouait l'élection là, avec les estimations, donc on est sur 27-28%. On est sur vraiment un rapprochement comme ça n'a jamais été le cas jusque-là.
Oui, c'est un rapprochement qui est frappant. On l'avait vu, ce rapprochement, déjà au moment des élections européennes, où il s'en est fallu d'un point, finalement, à l'avantage d'ailleurs du Rassemblement national. Là, on dit toujours, effectivement, deux ans avant, ça n'a pas de sens, les sondages, etc. Bon, c'est vrai, il ne faut pas les prendre comme la Bible. Il faut les prendre quand même comme une indication d'un certain climat. Moi, il me semble que l'élection prochaine, dans deux ans, elle se jouera sur deux terrains essentiels. Peut-être qu'il y en aura des nouveaux, mais en tout cas, deux terrains essentiels. Le pouvoir d'achat, et notamment celui d'une certaine France déshéritée, et les problèmes de la sécurité publique. Or, il se trouve que les événements, actuellement, sur ces deux terrains, permettent à Marine Le Pen et au Rassemblement national d'engranger, et ça explique les 7 points qu'elle aurait pris selon l'Institut de sondage du JDD d'hier. Effectivement, parce que on va s'acheminer vers une grande épreuve de force sur les retraites et la réforme des retraites, c'est le terrain social, et on a une épreuve de force à vif sur le terrain, on vient d'en parler.
Oui,
il me semble que là, les événements moulinent d'une certaine manière en faveur des voix du FN ou du RN.
Et pour ne pas s'être méfié en 2002 de l'insécurité publique, le Premier ministre à l'époque, qui était candidat à l'élection présidentielle, Lionel Jospin, a raté de toute façon son élection présidentielle. Et je pense que ce sera l'un des grands problèmes, je suis d'accord avec toi. Sur le pouvoir d'achat, je trouve quand même qu'il s'est un peu amélioré, mais est-ce que ça se voit? Est-ce que les gens l'ont réfléchi de cette manière-là? Non, c'est vrai. C'est toujours la faute de ceux qui dirigent. Mais sur l'insécurité, et notamment avec, pour moi, l'une des erreurs politiques importantes qui a été commise par le président de la République sur l'affaire du voile, qui n'était pas son affaire, tout ça enfle de toute façon la voile de l'insécurité publique.
Mickaël Darmon.
Ce qui est aussi frappant, parce qu'au fond, ce sondage, il est vrai, n'indique pas quelle sera l'offre politique finale en 2022. Non, et notamment, ça n'est pas
évidemment
un sondage d'intention de vote.
C'est aucune valeur prédictive, évidemment, ces sondages. Ce sont des intentions de vote absolument virtuelles. On ne connaît pas la fiche de 2022.
Mais nous sommes effectivement sur une photo. La photo du moment, quelle est-elle? À deux ans et demi après son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron, qui devait faire reculer le populisme et le Rassemblement national en particulier, eh bien, non seulement ne fait pas reculer, mais même contribue quelque part par sa contraction à faire progresser et installer et ancrer Marine Le Pen. L'autre, je pense, pan très important qu'il faut regarder, c'est l'attitude des jeunes, l'attitude de ceux qui se désespèrent, et ça c'est le mot de plusieurs ministres qui me l'ont dit en coulisses, qui se désespèrent de voir qu'il n'y a aucun récit gouvernemental vis-à-vis de l'urgence de la crise climatique planétaire. Et ça, la nouvelle conscience politique planétaire des des jeunes aujourd'hui, elle est vis-à-vis du climat et dans une critique radicale vis-à-vis des gouvernants. Vous avez eu un tweet aujourd'hui, il n'est que lui, mais symboliquement pour quelqu'un qui représente quand même une partie quand même de la gauche, Jean-Pierre Mignard, qui tweet en ce moment en disant « on n'a pas élu Emmanuel Macron ». Pour qu'il puisse continuer à faire progresser Marine Le Pen. Mais et ça, vu... ça nécessite, ça, oui. ça explique le malaise actuel.
Oui, mais tu as vu en même temps, d'ailleurs, justement, ça renforce ton dernier propos, c'est que les 25-35 ans, Marine Le Pen progressait considérablement, et, elle était à égalité.
Et autre élément voilà. très inquiétant de ce sondage, la jonction dans une perspective de deuxième tour avec les électeurs de la France Insoumise. Bah, qui alors, viennent ça, soutenir Marine Le Pen au deuxième tour.
Ça est la question oui. du Front Républicain, la fin du Front Républicain. La question, c'est aussi de voir que les électeurs de gauche de plus en plus nombreux disent qu'il n'est plus question pour eux de voter Emmanuel Macron au second tour. Ils promettent de s'abstenir aujourd'hui de gauche.
Oui, mais Nathalie, c'est aussi l'affaiblissement du Parti Socialiste oui, et des Républicains.
Mais après, la question, c'est est-ce que Emmanuel Macron est vraiment un rempart à Marine Le Pen ?
Le Front Républicain, c'était simple. C'était la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement qui s'allient pour faire barrage à Le Pen. Il n'y a plus de Front Républicain.
Et la question de savoir aujourd'hui, deux ans avant, et on est trop loin évidemment pour être dans quelque chose de palpable, mais c'est les réponses aujourd'hui d'Emmanuel Macron, immigration, laïcité, etc. Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que ça donne confiance aux électeurs ?
Pour la majorité des Français qui considèrent que ce sont des problèmes importants, elles semblent déconnectées de la prise de conscience des problèmes. On voit bien que c'est effectivement tardif, que ça a surpris une partie de la majorité. Une partie de la majorité ne relaye pas ses propos sur le terrain parce qu'il a une faiblesse structurelle, Macron. Il a un parti qui est pratiquement inactif et inaudible sur le terrain. On le verra aux élections municipales. Il y aura une crise politique au lendemain des élections municipales parce qu'on verra à quel point la République En Marche est faible en termes de structure territoriale. Et de ce point de vue-là, ça va commencer et continuer à lui poser un problème.
Alors, oui. les violences en banlieue et puis l'immigration, je vous dis simplement un mot, c'est que Édouard Philippe prendra mercredi, donc après-demain, les décisions, donc après le débat sur l'immigration, ces sujets donc, voyez, qui dominent quotidiennement.
Il est temps que les décisions viennent confirmer un certain nombre de discours un peu creux.
Enfin, il faut voir quelles décisions.
Voilà, bon, vous serez là pour les commenter de toute façon. Merci beaucoup. Merci les grandes voix, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Michaël Darmon. Merci à vous.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Le journal de Sébastien Krebs, on est à Marseille parce que demain, commémoration, vous vous souvenez, on est un an après le drame de la rue d'Aubagne, l'effondrement de ces immeubles.
Vous écoutez Nathalie Lévy, votre grand journal du soir, jusqu'à 20h.
Europe 1.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, hein, vous écoutez Nathalie Lévy.
Et je vous livre le programme. 19h10, l'invité politique de David Doucan. Ce soir, la députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, sera dans ce studio et réagira notamment aux événements dans les Yvelines. Et puis dès 19h20, attention, un rendez-vous exceptionnel ce soir et toute la semaine sur Europe 1. Ça s'appelle Derrière le mur, une série documentaire absolument passionnante à ne pas manquer, réalisée avec les archives d'Europe 1 à l'occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Premier épisode ce soir. On vous en dit plus, évidemment. Restez avec nous.
Et vous pouvez également réagir à cette émission et participer. N'hésitez pas, ça se passe sur les réseaux sociaux, Twitter, avec le hashtag Europe 1. Belle fin de journée avec Europe 1. Il est 19h.
Pourquoi il ne serait pas le bienvenu ? C'est qu'il n'a pas la conscience tranquille. C'est le maire, c'est le représentant de tous les habitants. Pourquoi il ne viendrait pas ?
Climat tendu à Marseille à la veille du premier anniversaire du drame de la rue d'Aubagne. 8 morts dans l'effondrement de 2 immeubles l'an dernier. Le maire Jean-Claude Gonin annonce qu'il ne sera pas présent pour les commémorations.
Toujours 18 000 foyers privés d'électricité dans l'Ouest, principalement en Gironde. La tempête Amélie a laissé des traces.
Dans l'actualité aussi ce soir, premier bilan de l'école inclusive pour les enfants handicapés. Peu mieux faire, disent les associations 2 mois après la rentrée.
Et si le prochain président américain était le même qu'aujourd'hui. C'est une question à l'heure actuelle. Hein. Donald Trump pas si mal placé pour sa réélection, en tout cas pile un an de cette présidentielle américaine.
Et puis l'Olympique Lyonnais au pied du mur, match couperet demain en Ligue des Champions face à Benfica.
Et la tendance météo, Anissa.
Encore de la pluie, encore du vent demain, même quelques orages. Et puis il y aura des régions sous le soleil. Je vous donne tout le détail à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Demain, la rue d'Aubagne va donc se figer pendant 8 minutes. 8 minutes pour 8 victimes de ce drame qui a profondément marqué la ville de Marseille. Il y a un an, jour pour jour, 2 immeubles qui s'étaient effondrés. Les drapeaux de la ville ont tous été mis en berne. Mais le maire, Jean-Claude Gaudin, a annoncé aujourd'hui qu'il ne se rendrait pas sur place pour ces commémorations. Stéphane Frangy, vous êtes à Marseille.
Et non, puisqu'il n'a pas oublié les manifestations de colère sous le balcon de sa mairie dans les jours et semaines qui avaient suivi le drame. Jean-Claude Gaudin qui veut jouer l'apaisement et s'effacer.
Je sais bien que dans une ville, le maire, par nature, est responsable de tout. Ce drame, je l'assume totalement, mais mon rôle est d'apaiser. Je ne crois pas que ma présence soit souhaitée. Vous pensez bien que de ce que j'ai vécu depuis un an, je cherche surtout l'apaisement.
Voilà, et dans la foulée des militants associatifs impliqués dans ce dossier, ont convoqué la presse rue d'Aubagne pour faire part de leur incompréhension, comme Badra Deloum du collectif du 5 novembre.
Pourquoi il ne serait pas le bienvenu? C'est qu'il n'a pas la conscience tranquille. C'est le maire, c'est le représentant de tous les habitants. C'est le premier habitant de cette ville, monsieur. Pourquoi il ne viendrait pas? Monsieur le maire devrait être devant les manifestations, s'il avait la conscience tranquille, avec tout son conseil municipal.
Alors, la municipalité va organiser néanmoins sa propre cérémonie en mairie centrale, avec une minute de recueillement, drapeau en berne, et une plaque commémorative sera dévoilée. Dévoilée seulement, puisqu'elle sera installée rue d'Aubagne ultérieurement.
Et nous suivrons donc cette journée demain. Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille.
Trois ministres vont faire le déplacement à Chanteloup-les-Vignes demain.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, de la Justice, Nicole Belloubet, et celui de la ville, Julien de Normandie. Information annoncée ce soir après les violences urbaines de samedi et l'incendie d'un centre culturel que le département promet de reconstruire à l'identique. Aujourd'hui, le Premier ministre Édouard Philippe a dénoncé, je cite, une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables, et c'est attiré les foudres de la droite qui estime qu'il aurait dû les qualifier plutôt de criminels. Les dégâts de la tempête Amélie, 18 500 foyers sont toujours privés d'électricité ce soir, annonce Enedis. La pluie et les vents ralentissent toujours les opérations des techniciens des foyers privés d'électricité, essentiellement en Gironde.
Nous en venons au défi de l'accueil des enfants handicapés à l'école.
Deux mois après la rentrée, le gouvernement a vanté aujourd'hui les premiers effets de son plan pour l'école inclusive. 87% des élèves en situation de handicap ont pu être accueillis à plein temps, estime le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Mais il reste toujours des cas les plus difficiles. Bilan qui reste en demi-teinte, selon Luc Gâteau, le président de l'UNAPEI, la principale fédération d'associations de défense des personnes handicapées.
On sent quand même que tout ça est une mise en œuvre un peu chaotique. Elle a des niveaux très disparates sur les territoires, pas toujours cohérentes, ce qui nous amène à un bilan un peu mitigé sur cette rentrée scolaire, parce qu'on sent que beaucoup de choses veulent se mettre en place. Il faut continuer à mettre des moyens. Et il y a nécessité aussi de former des accompagnateurs dans le milieu scolaire ordinaire, ce qui met du temps. Former aussi tout le corps enseignant, parce qu'il faut viser à ce que l'ensemble des droits soient effectifs pour tous les enfants.
Le président de l'UNAPEI, propos recueillis par Ève Roger.
Emmanuel Macron est en Chine.
Oui, le président de la République a atterri à Shanghai, capitale économique, pour une visite dédiée au commerce et aux accents très européens, puisqu'il est accompagné d'une ministre allemande et d'un commissaire de Bruxelles pour des rencontres avec des chefs d'entreprise. Et demain, la visite de la foire aux importations de Shanghai.
Et nous sommes également aux États-Unis ce soir, parce que dans un an, jour pour jour, nous connaîtrons le nom du prochain président des États-Unis.
Et côté démocrate, 13 candidats sont en course pour des primaires qui vont démarrer dans les mois qui viennent. Mais le prochain président, ce sera finalement peut-être le même. Xavier Yvon, vous êtes notre correspondant aux États-Unis, le même donc Donald Trump, évidemment plus que candidat à sa réélection et qui n'est finalement pas en si mauvaise posture.
Oui, c'est vrai. D'abord parce que les indicateurs économiques sont au vert pour l'instant et ça favorise toujours un président sortant. Et puis, même si Donald Trump est donné pour l'heure perdant dans les sondages contre ses potentiels adversaires démocrates, ça reste des sondages nationaux et c'est état par état qu'il faut regarder. Et d'après un sondage très intéressant aujourd'hui du New York Times, Donald Trump reste très compétitif dans les États du Midwest qui lui ont permis de gagner en 2016. Le seul démocrate qui est encore sûr de le battre dans ces États clés, c'est Joe Biden, l'ancien vice-président d'Obama. C'est beaucoup moins certain pour les autres candidats possibles comme Elizabeth Warren ou Bernie Sanders qui sont plus à gauche et plus clivants. Et c'est un problème pour eux parce que la priorité numéro une des sympathisants démocrates, c'est de battre Donald Trump l'an prochain. C'est pour ça que René, par exemple, votera Biden à la primaire. Cette militante démocrate que j'ai rencontrée dans l'Iowa ce week-end a fait froidement son calcul. Certes, Biden ne fait pas rêver, mais les autres présentent trop de risques de perdre.
Elizabeth Warren, désolée, mais ce pays n'est pas prêt à élire une femme. Et Bernie Sanders, c'est un révolutionnaire.
Et certains cadres du Parti démocrate sont tellement inquiets qu'ils commencent à regarder autour d'eux s'il n'y a pas un meilleur candidat que les 13 déjà en lice.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Et puis le foot, Sébastien, la Ligue des Champions au programme demain.
Deux matchs à partir de 21h, le déplacement de Lille chez les Espagnols de Valence et les Lyonnais qui accueillent le Benfica Lisbonne avec leur nouvel entraîneur Rudy Garcia. Match décisif pour cette Ligue des Champions. Grande soirée de foot hein, demain dès 20h avec Lionel Rosso. Et puis vous venez de l'entendre avec vous, Nathalie Lévy, sur Europe 1, le lauréat du prix Goncourt 2019, Jean-Paul Dubois. Il est primé pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. C'est aux éditions de l'Olivier. Ça a été un vote très serré face à Amélie Nothomb. Renaudot, lui, est décerné à Sylvain Tesson pour La Panthère des Neiges chez Gallimard.
Merci beaucoup Sébastien. Retour de l'info avec vous 19h30 dans ce studio.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Avec Anissa qui va nous dire le programme après le passage de la tempête, évidemment, de ce week-end.
Oui, la tempête Amélie, effectivement, Nathalie, qui a fait des dégâts. Eh bien, nous n'en avons pas fini avec le vent demain. Au bord de la Méditerranée, en Corse et dans la Manche, même jusqu'en Bretagne, le long du littoral aquitain. Le vent d'ouest souffle fort demain avec des rafales jusqu'à 90 km/h. Sur la Corse, ce vent sera accompagné de très fortes averses. Donc, journée très maussade demain sur l'île de Beauté. Au nord, en Normandie, Bourgogne, Alsace, le temps est assez sec demain avec de très belles éclaircies. C'est là que vous aurez la plus belle journée. Partout ailleurs, c'est un ciel de traîne partagé entre nuages et éclaircies. Demain après-midi, il fera 9 à Aurillac, 12 à Dijon, 12 à Paris, 14 à Strasbourg, 19 à Nice et 21 à Bastia.
Europe 1.
Votre grand journal du soir à suivre, Nathalie Lévy. Avec dans une seconde l'interview politique de David Doucan. Bonsoir David.
Bonsoir Nathalie.
Votre invitée ce soir dans ce studio.
Elle est députée la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et aura sans doute beaucoup de choses à dire sur les sujets d'actualité. Violences urbaines, climat social extrêmement tendu, une grève qui s'annonce dure le 5 décembre, mais aussi cette commémoration de la chute du mur de Berlin. Jean-Luc Mélenchon a eu des propos qui ont entraîné la polémique.
Une interview politique, c'est dans votre grand journal du soir, dans un instant, sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy, et tout de suite place à l'interview politique. De David Doucan, et votre invité ce soir, David, est la députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain.
Bonsoir Clémentine Autain.
Bonsoir.
Vous avez vu, bien sûr, ce qui s'est passé à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, ce week-end. Des violences urbaines, les policiers attaqués avec parfois des mortiers. Il y a deux blessés légers parmi les forces de l'ordre. Et puis, ce lieu de culture emblématique, l'Arche, cela s'appelle, où les enfants allaient faire du cirque. Et ce lieu a été incendié. D'abord, on entrera ensuite dans le détail. Quelle est votre réaction à vous en tant qu'élu ? En tant qu'élu, vous êtes élu de Seine-Saint-Denis. Quelle est votre réaction ?
Ma première réaction, c'est un sentiment à la fois de tristesse et de colère. Je pense aux habitants qui subissent d'une certaine manière une forme de double peine parce que à la fois, ils voient leur quotidien dégradé depuis maintenant plusieurs décennies hein, à cause de politiques urbaines qui ne favorisent pas du tout le rééquilibrage à l'intérieur des métropoles, des conditions de vie aussi affaiblies par des politiques néolibérales, et donc une vie qui se durcit, et en même temps des scènes de violence où on touche à ce qui, pardonnez-moi, mais pour moi, peut-être parce que je suis fille d'artiste aussi, me paraît comme le cœur de ce que peut constituer l'émancipation dans ces quartiers, mais au-delà, c'est-à-dire un cirque, un lieu de culture. Donc, je suis en colère, parce qu'évidemment, c'est inacceptable.
Vous dites, Clémentine Autain, c'est la faute des politiques néolibérales. Est-ce que ce n'est pas plutôt la faute des trafics en drogue ? Parce que,
mais l'un n'est pas forcément sans lien avec l'autre,
c'est
précisément.
C'est ça qu'il faut expliquer. Est-ce que vous considérez qu'on est face à des violences urbaines qui s'expliquent par un climat social, de quartiers défavorisés ? Ou bien est-ce que ce sont des délinquants, des criminels qui tout simplement pratiquent la violence ?
Moi, je n'ai aucune complaisance à l'égard de personnes qui brûlent un cirque, qui s'en prennent comme ça à des quartiers. Bon, c'est clair, je n'ai pas... C'est pas vraiment le sujet. Après, le sujet qui est devant nous, c'est de savoir comment faire en sorte que des quartiers populaires ne subissent pas des violences urbaines à répétition. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a là et pas forcément ailleurs ?
Peut-être la sanction ? Est-ce que la politique pénale est à la hauteur ?
Écoutez, la répression va avoir lieu. Vous avez un doute ?
La répression ?
Bah, évidemment, de ceux qui ont commis des actes comme cela, vous pensez bien qu'ils vont être poursuivis.
Les policiers,
vous
y compris dans votre... Oui, parce que quand on écoute les policiers, y compris dans votre département, d'ailleurs, j'entendais récemment un responsable syndical le dire, ils disent, on fait tout le travail, on respecte toutes les procédures, on mène les enquêtes, et derrière, les peines, soit sont trop faibles, soit ne sont même pas appliquées.
Oui, alors
ça existe ce problème-là pour vous ?
moi, je pense que le problème aujourd'hui n'est pas le niveau de la répression. Le problème aujourd'hui est surtout comment on peut d'abord faire en sorte que dans ces quartiers-là, on vive correctement, comment on arrive à faire que le trafic de drogue n'apparaisse pas comme une solution pour beaucoup de jeunes et de familles aussi pour vivre. Donc, comment on s'en prend à ce trafic ? C'est quand même une vraie question.
Quelle est votre réponse ?
Alors là, je vais vous dire, je n'ai pas une réponse en deux phrases sur le trafic de drogue.
Prenez plus que
je
deux phrases. Prenez davantage que deux phrases.
Pas, je n'ai
c'est
pas
un sujet important, j'ai envie de vous entendre là-dessus.
D'accord. Je n'ai pas de solution en deux phrases. Ce que je constate en tout cas, c'est que ce sont des pans entiers de quartiers qui vivent, qui survivent même, par ce biais-là. Voilà. Que la police n'arrive visiblement pas à en venir à bout, c'est clair, net.
Elle n'en a pas forcément
les moyens. Mais donc, il faut quand même réfléchir et se mettre autour d'une table. Alors, mais je veux dire, qui a la solution en claquant des doigts, franchement, est bien malin.
Je pense que ce sujet
n'est pas suffisamment correctement traité par les pouvoirs publics.
Parlons du fond. Par exemple, le nouveau numéro 2 des Républicains, Guillaume Pelletier, a plaidé ce matin pour que ces mineurs délinquants récidivistes, au-delà de la sanction judiciaire, puissent ensuite aller dans des services militaires obligatoires.
Non mais là
ça vous
on
parle
est...
ou pas du tout ?
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est sans arrêt, aujourd'hui en France, dans une espèce de surenchère, qui est d'ailleurs bien alimentée par l'extrême droite qui a le vent en poupe, qui laisserait à penser que la solution dans nos quartiers populaires, c'est toujours plus de répression, toujours plus de vidéosurveillance, toujours plus de mise au pas. Bon. Moi, je vous le dis, dans le cas de Chanteloup, il n'y a pas de doute, évidemment, qu'il faut de la sanction. Je n'ai aucun problème avec ça. Et on a des lois pour ça, aujourd'hui, dans notre pays.
Oui, mais quand je vous écoute, je tire
la sonnette d'alarme et je dis que si on continue à avoir un développement métropolitain où on a une polarisation de richesse d'un côté et de pauvreté de l'autre. Là, je parle de services publics, d'activités économiques, de possibilités de nourrir le lien social. Alors, en effet, on va laisser le champ libre au trafic de drogue, à la délinquance et à des jeunes qui ne voient pas de perspective et d'avenir.
Justement.
Et qui donc peuvent basculer dans la délinquance. Cette idée qu'on ne résout les problèmes qu'en jouant sur la sanction a posteriori est une erreur
magistrale. Oui, mais
quand
tout à l'heure je vous ai demandé quelles autres solutions vous pouviez proposer,
mais je viens de vous
m'avez
le dire.
Dit je n'en ai pas. On parle de la drogue précisément.
Voilà. Bon. Je dis que sur ça, je pense que personne n'a de pouvoir magique qui fait que ça se règle en 15 secondes. En revanche, et ça, je suis très claire là-dessus, et je le vois de la Seine-Saint-Denis. Vous savez que le Premier ministre est venu avec des ministres vendredi en Seine-Saint-Denis pour nous annoncer un plan qui a le mérite d'exister, mais qui est quand même particulièrement décevant. Parce
10 000
que...
euros de prime pour les fonctionnaires qui acceptent de rester davantage que 5 ans. Bon.
Oui, enfin, vous voyez bien que 10 000 euros, moi je suis favorable à cette prime. Mais si vous ne changez pas les conditions d'exercice du travail, vous en aurez beaucoup qui vont continuer à partir. Donc il faut... Non mais ce que je veux dire, c'est que ne croyez pas que parce que vous allez augmenter les sanctions et emprisonner tout le monde, vous allez trouver
on
une solution
entendu,
pour les quartiers.
On vous a entendu
comprenez bien que l'État en Seine-Saint-Denis donne moins d'argent que dans les autres départements, indépendamment de la situation sociale de ses habitants.
Si vous
ne regardez pas cette réalité, alors il n'y a pas de solution.
On avance. La cohésion française est en train de s'écrouler. Voilà ce qu'a déclaré hier Ségolène Royal. J'élargis le débat, on n'est pas seulement sur les problématiques des quartiers. Une tension sociale dans le
pays.
C'est
pas son lien. Vous savez, quand on regarde la République de la Seine-Saint-Denis, vue de la Seine-Saint-Denis, on voit bien comment il y a un problème de cohésion. Vraiment, on le voit très, très, très bien. Parce que les premières victimes, par exemple, tiens, vendredi, ça ne fait pas la une de l'actualité, mais vous savez qu'il y a une contre-réforme du chômage qui a été mise en œuvre par le gouvernement, d'ailleurs sans débat parlementaire, de façon très, très violente, et qui fait que vous avez plus d'un million de chômeurs qui va voir sa situation terriblement régresser.
Durcissement d'accès aux droits, aux indemnités pour 1 400 000 chômeurs, effectivement, selon la CFDT.
Plus une dégressivité, les deux.
Et la dégressivité pour les hauts salaires.
Voilà, donc ceux qui sont en bas de l'échelle, qui cumulent un peu de petits bouts de CDD, notamment des femmes, des petits bouts de CDD, puis de l'emploi, etc., vont être mis de fait dans la case RSA rapidement. Donc on va aller vers des poches de pauvreté qui vont grandir. Donc ce que je veux juste vous dire, c'est que aujourd'hui, tout ce qui permet la solidarité, le lien, le partage des richesses fait cruellement défaut parce que nous avons 30 ans de politique qui ont servi les plus riches au détriment des quartiers et des populations qui en avaient le plus besoin. Et donc ça ne crée pas de la cohésion.
Clémentine Autain,
ça crée du clivage, ça crée de la désespérance.
Ce cirque qui a brûlé à Chanteloup-les-Vignes pouvait créer du lien en 10 secondes. Est-ce que vous considérez, Clémentine Autain, qu'il y a 30 ans, la RDA a été annexée par la RFA, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon?
Je considère que la chute du mur de Berlin avait pu, à ce moment-là, en 89, et je m'en souviens, je suis même revenue avec un bout du mur, donc j'avais aussi, j'étais toute jeune, peut-être espoir que quand les murs tombent, c'est une bonne nouvelle. Et j'aime quand les murs tombent, et j'aimerais que certains tombent. Hein, je pense au mur du Mexique ou à bien d'autres aujourd'hui à travers le monde. Le seul problème, c'est qu'une fois que ce mur est tombé, ce qu'on a vu, c'est que c'est plutôt le modèle capitaliste, c'est-à-dire le modèle occidental inspiré aussi de Thatcher et d'autres, qui s'est imposé. Et je ne crois pas qu'on ait là une solution sociale et écologiste qui permette justement de créer de l'espérance pour ces populations, encore plus que pour les autres, parce qu'elles ont pris cher avant et elles ont du mal à s'en sortir
Clémentine
aujourd'hui.
Clémentine Autain, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, merci d'avoir répondu à mon invitation.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Restez avec nous dans un instant, un rendez-vous exceptionnel, justement, toute cette semaine sur Europe 1. Derrière le mur, une série documentaire passionnante réalisée avec les archives exceptionnelles d'Europe 1 à l'occasion des 30 ans de cette chute du mur de Berlin. Premier épisode à retrouver ce soir, là, dans quelques minutes. On va vous le présenter, évidemment, dans le détail, avec entre autres Sophie Larmoyer qui a travaillé pendant des semaines dessus, toute une équipe formidable, vous allez voir. On vous en dit plus dans une seconde.
Vous écoutez Nathalie Lévy, jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec à partir de maintenant et toute cette semaine, un rendez-vous exceptionnel.
Effectivement, un rendez-vous exceptionnel intitulé « Derrière le mur », une série documentaire absolument passionnante, vous allez la découvrir dans quelques instants, réalisée avec les archives exceptionnelles d'Europe 1 à l'occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Le premier épisode va être diffusé ce soir. Sophie Larmoyer, bienvenue dans ce studio, bonsoir à vous.
Bonsoir Nathalie.
Vous êtes une, évidemment, de ces artistes, j'allais dire aussi, parce que c'est un travail minutieux, toute une équipe est derrière vous, vous allez nous expliquer dans un instant. Voilà, qu'est-ce que vous nous proposez à nous et aux auditeurs jusqu'à vendredi?
Alors, on vous propose de redécouvrir finalement toute cette période de la guerre froide, hein, du rideau de fer, à travers les archives d'Europe 1. Donc, à travers les archives d'Europe 1, ça veut dire qu'on commence en 1955, évidemment, ouais. Pas avant, et jusqu'à 1989, donc à travers 5 documentaires sonores d'une vingtaine de minutes chacun, pour reprendre les grandes périodes de cette guerre froide, en commençant par, évidemment, l'édification de ces deux blocs, face à face, dès l'après-guerre, dès Yalta. Toute la course aux armements, la course à l'espace, évidemment, qui sont extrêmement liés. Tous les affrontements, ce qu'on appelait les affrontements délocalisés, c'est-à-dire les autres manières de compter les points, hein, les histoires d'espionnage, les guerres comme la guerre du Vietnam, la guerre d'Afghanistan, etc. Les soulèvements populaires qui ont finalement amené à la détente. Et puis, on va arriver vendredi donc à la chute du mur, à cette année 89, qui est une année évidemment charnière.
Évidemment. Alors, vous avez travaillé, j'allais dire, comme des orfèvres. C'est un travail de fourmi, véritablement. Ouais. Un travail aussi tentaculaire, avec toute une équipe. Et regardez à partir de quoi, je montre aux auditeurs qui vont pouvoir aller sur le site, à travers quoi, eh bien, vous vous êtes replongé dans des archives aussi papier, les agendas de l'époque.
Exactement.
Avec tous les éléments marqués. Berlin, rideau de fer, rue Barrée, on ne passe plus, on est le dimanche 13 août, entre autres.
C'est le jour de l'édification. Exactement. Du mur de Berlin. Et en fait, ça, c'est le travail des documentalistes d'Europe 1. C'est une belle équipe. Il y a 6 personnes qui ont travaillé pour essayer de récolter finalement les archives liées à la guerre froide. Ils nous en ont proposé un peu plus de 500. Donc c'est un énorme travail de fourmi parce qu'il faut aller rechercher dans tous ces agendas, année après année, ce qui pourrait être intéressant, ce qui pourrait faire la différence. Là où Europe 1 a eu, à un moment donné, un son extrêmement fort, un envoyé spécial qui était sur un événement formidable.
Évidemment.
Et donc, ils connaissent bien leurs archives, mais il faut aussi y rechercher. Donc ça, c'est un travail de mois entier de fourmi de toute l'équipe d'archives. Ensuite, nous, on a... on a sélectionné. On s'est dit, bon, bah, voilà, il faut en garder quelques-uns pour raconter cette histoire. Et ensuite, il y a la mise en onde avec le producteur Sébastien Guidis qui fait ce qu'on appelle du sound design. Donc, ouais, en fait, il recrée des ambiances complètement pour lier ces archives. Quand on vous parle de la chute d'un avion espion au-dessus de l'URSS, c'est beaucoup plus convaincant quand vous entendez le crash, par exemple. Bah, Sébastien, il refait ça, il nous réambiance l'ensemble et ça fait des documents,
documentaires sonores. Et on plonge un peu plus encore dans cette époque grâce à ces éléments sonores. Effectivement, Sophie Larmoyer, ce premier épisode-là qu'on va entendre dans un instant, donnez-nous les grandes lignes rapidement.
Alors donc, c'est l'émergence des deux blocs hein, autour des Américains et des Soviétiques, cette fracture Ouest-Est, les régimes communistes hein, qui sont dans le pacte de Varsovie, une ville qui symbolise cette fracture, Berlin, évidemment, qui était administrée, vous savez, à la fois par les Alliés et par les Soviétiques dans l'après-guerre, et puis qui, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, a été coupée en deux sous les yeux des correspondants d'Europe 1 qui étaient là et qui se sont réveillés le matin. Et puis, il y avait des barbelés, on plantait des poteaux, etc. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va vous raconter dans ce premier épisode qu'on a appelé Deux blocs face à face.
Exactement, deux blocs face à face, qu'on va écouter dans moins de 3 minutes. Merci beaucoup Sophie Larmoyer, vous allez rester évidemment avec moi. L'information, c'est Sébastien Krebs qui s'installe dans ce studio dans quelques secondes. Et derrière le mur commence juste après un rendez-vous tous les soirs de la semaine jusqu'à vendredi, à ne pas louper.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1.
Le grand rendez-vous du Made in France, c'est du 8 au 11 novembre à Paris, Porte de Versailles. 550 exposants, mode, beauté, maison, innovation, gastronomie. Achetez le meilleur du Made in France. Le rendez-vous à ne pas manquer, c'est le salon du Made in France, du vendredi 8 au lundi 11 novembre à Paris, Porte de Versailles. Invitation sur mifexpo.fr.
MMA, interruption spéciale.
Benoît, vous êtes sur un chantier à Marmande, il ne se passe rien.
Non, rien du tout.
Ça veut dire que depuis l'incendie, les travaux n'ont toujours pas repris. L'entrepreneur va subir une baisse d'activité, son chiffre d'affaires va chuter.
Non, avec MMA, la garantie perte d'exploitation va lui permettre de recevoir une indemnité compensatrice. MMA, zéro tracas.
Et zéro blabla. Envoyez la pub.
Zéro tracas, zéro blabla.
Conditions en agence MMA.
Et si c'était le moment d'avoir votre site web clé en main avec Orange?
Alors moi, grâce à Orange Pro, j'ai un site web génial pour mes compositions florales.
Ah bah moi j'ai un expert qui s'occupe de tout, de la création jusqu'à la mise en ligne.
Et moi, on peut même visiter mon site depuis un mobile.
Moi aussi, j'ai plus qu'à monter ma boîte.
Avec l'offre site web clé en main, Orange vous accompagne pour développer votre visibilité sur Internet. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue.
Ford. Il y a forcément une Ford Focus pour vous. Vous êtes aventurier? Venez découvrir le crossover Focus Active. Vous avez besoin de place? La Ford Focus est aussi disponible en break SW.
Et bip.
Ah oui, t'es dit, pour toi, il y a la Focus ST-Line, celle de tous les sportifs.
Excellent!
Pendant les Ford Days, la gamme Ford Focus avec aide au maintien dans la voie est à partir de 169€ par mois. Choisissez celle qui vous ressemble. C'était dit qu'il a dit.
LLD à particulier 48 mois 40 000 km d'une Focus Train 5 portes 1 litre 100 chevaux, premier loyer de 2490€. Offre jusqu'au 30 novembre sous conditions de reprise et si accord Brémanilis, voir Ford.fr.
J'aime quand les crevettes se marient au crémeux du risotto. J'aime quand les épinards fondent sur la langue et que je me fais plaisir à chaque bouchée. En ce moment, vous allez aussi aimer profiter de 30% de réduction sur vos produits Picard préférés, comme le risotto crevettes et fondue d'épinards à seulement 3,49€ avec la carte Picard et moi. Picard, le plaisir s'invente chaque jour. Produit élu par plus de 100 000 clients Picard. 310 grammes, soit 11,25€ le kilo. Conditions en magasin et sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Peugeot présente plein phare sur la Peugeot 108.
Ma nouvelle invitée est celle qui a créé la surprise dans la superproduction Génération 2020. Je veux parler de la délicieuse Peugeot 108. Très convaincante lors de ses marches arrière avec sa caméra de recul, sulfureuse parfois avec son toit découvrable, c'est surtout sa nouvelle motorisation dernière génération et déjà disponible qui nous a époustouflés. Une prestation d'autant plus saluée qu'elle a su rester hyper accessible avec 2500€ de prime Génération 2020.
Détails sur Peugeot.fr.
19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
L'info, le rappel des titres de Sébastien Krebs.
Trois ministres à Chanteloup-les-Vignes demain dans les Yvelines après les violences urbaines samedi soir et notamment l'incendie de ce centre culturel. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sera accompagné de la garde des Sceaux Nicole Belloubet et du ministre de la Ville Julien de Normandie. 18 000 foyers toujours privés d'électricité ce soir, notamment en Gironde après le passage de la tempête Amélie. Le vent et la pluie qui continuent retardent les opérations de réparation d'exploitation. Premier coup de pelleteuse sur le chantier de Paris 2024, construction du village olympique en Seine-Saint-Denis. Les travaux de démolition ont démarré aujourd'hui. Le chantier doit durer 3 ans. Et puis Jean-Paul Dubois, lauréat du prix Goncourt 2019, primé pour un roman mélancolique. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, aux éditions de l'Olivier. Le Renaudot est décerné à Sylvain Tesson pour La Panthère des Neiges chez Gallimard.
Sébastien, merci à vous. L'info revient à 18h demain.
À
Sébastien
demain.
Krebs, le vent et Nissa. Anissa.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Eh oui, le vent continue de souffler. Il souffle sur la Bretagne, la Manche, l'Aquitaine, la Méditerranée et la Corse. Demain, le vent va souffler fort avec des rafales jusqu'à 90 km/h. Sur la Corse, en plus de ce vent, vous aurez beaucoup de pluie avec des coups de tonnerre. C'est vraiment une journée très très maussade sur la Corse. Sur la Picardie, la Bourgogne, l'Alsace, le temps est sec avec des éclaircies. Ça sera là qu'il fera le plus beau demain.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, et c'est parti jusqu'à 20h avec un document exceptionnel, Nathalie Lévy.
Qui s'intitule « Derrière le mur », cette série documentaire passionnante réalisée avec les archives exceptionnelles d'Europe 1 à l'occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Premier épisode, Sophie Larmoyer, là, tout de suite.
Absolument, donc deux blocs face à face, les Américains, les Soviétiques, juste après Yalta, et puis on va aller jusqu'à l'édification du mur de Berlin.
Et ça commence tout de suite, c'est toute la semaine sur Europe 1.
Europe 1.
Ich bin ein Berliner.
1955-1989, derrière le mur.
D'est en ouest, on ne passe plus.
Deux blocs face à face.
Vive la paix!
Berlin, 13 août 1961. Stupeur au réveil pour les habitants. Une sorte de mur a été érigé dans la nuit, l'Est séparé de l'Ouest. Claude Guillaumin est le correspondant d'Europe 1.
Berlin est vraiment coupé en deux. Le rideau de fer est tombé à la limite du secteur soviétique et des secteurs occidentaux. Un rideau de fer constitué pour durer. Des poteaux en ciment de 2 mètres de haut, reliés par 7 rangées de fils de fer barbelés. Les routes, les rues sont barrées par des chevaux de frise et des barricades de pierre. D'est en ouest, on ne passe plus.
Mur de la honte pour les uns, rempart antifasciste pour les autres, le mur de Berlin devient le symbole le plus criant du rideau de fer. 8500 km de miradors, fossés et champs de mines, reliés par des frises barbelées de la mer Baltique jusqu'à la mer Caspienne. En réalité, ce mur de Berlin matérialise de vieilles fractures qui ont été figées, gelées par la conférence de Yalta à la fin de la guerre en 1945. Dans tous les pays d'Europe de l'Est, libérés par l'armée rouge, Staline a instauré des régimes à sa botte et l'arrivée de Khrouchtchev n'y a rien changé. Pendant toutes ces années, Europe numéro 1 se fait l'écho des soulèvements réprimés dans le sang, comme ce 29 juin 1956 en Pologne, où un chef d'entreprise depuis Poznan témoigne sur l'antenne.
Il y a donc eu grève dans la région, une grève donc des ouvriers métallurgistes, oui. Alors les ouvriers sont descendus en ville, et puis il y a eu des incidents autour des bâtiments de la police, il y a eu des échanges de coups de feu. L'après-midi, la troupe a pris position dans la ville. Il y a encore des troupes qui occupent les carrefours, il y a des tanks qui sont dans la ville qui patrouillent.
Bilan des émeutes, des dizaines de morts, des centaines de blessés, et l'arrivée au pouvoir en Pologne d'un communiste modéré, Gomulka, ce qui fait bien râler Khrouchtchev à Moscou.
La conversation était très amère hier.
La conversation était très amère.
Extrêmement, oui. Khrouchtchev était presque déchaîné.
Il était déchaîné. Et il se sent quitté dans quel terme?
Il a parlé de traître.
Oui.
Il a dit que l'armée rouge avait versé son sang pour la Pologne et maintenant on voulait la vendre aux Américains.
Oui.
Et aux socialistes.
Varsovie reste dans le giron, mais des concessions sont faites aux ouvriers polonais. En Hongrie aussi, on réclame des réformes. Les manifs d'étudiants tournent à l'insurrection populaire. C'en est trop pour Moscou qui envoie les chars. Un moment historique saisi par Gilbert Lauzin sur Europe 1, le 4 novembre 1956. Il est à la fenêtre de sa chambre de l'hôtel Duna, à Budapest, et fait tourner son magnétophone.
Eh bien, là, il semble que la bagarre a commencé à...
Vers nous en ce moment, tourelle braquée vers l'hôtel Duna, il vient de tirer une rafale de mitrailleuse.
On essaye de voir en se mettant un peu au-dessus de la fenêtre, mais je vous avoue que c'est extrêmement dangereux.
Un deuxième char le suit de près.
Oui, mais ça y est, écoute, il vaut mieux pas qu'on va se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux.
Tu peux arrêter non plus ?
Non.
Tu crois que tu peux entendre les chars, hein ?
Oui, on doit entendre les chars. Ils ont exactement les tourelles lancées, tournées vers nous et...
Il y a le canon élevé. Il y a le canon élevé.
Yeah. Oui, oui, je viens. Tire la mitraille, vous entendez les balles qui claquent contre le mur. Écoutez, je... Vous entendez les balles claquer sur le mur.
Un troisième char arrive.
Ah oui? Coup de camou. Un troisième char arrive, je ne sais pas si vous avez entendu. C'est mon ami de vous qui m'a entendu ça. Vous entendez le bruit des chars, les gens dans l'hôtel sortent doucement. Quatrième char et ils tirent. En quelle direction? Ben, pas sur nous alors. Ils viennent tourner sa tourelle, c'est vers nous? Il vaut mieux se baisser, oui je crois. Vous entendez de temps en temps les 8 balles qui tapent. Voilà. Je suis navré, j'arrête le magnétophone.
Le soir même, l'armée rouge reprend Budapest. Bilan, des milliers de morts et 200 000 exilés vers l'Autriche. Au même moment, la crise du canal de Suez agite le monde, fait diversion et fige un peu plus les deux camps. Dans ce contexte de guerre froide, le symbole de toutes ces tensions, c'est la ville de Berlin. Berlin-Ouest est une enclave alliée, nichée au cœur de la RDA, l'Allemagne de l'Est, contrôlée, elle, par les soviétiques.
Je viens de demander si quelqu'un autour de ce monsieur peut dire si les troupes soviétiques s'apprêtent ou s'apprêtent un jour à quitter le secteur berlinois qu'elles occupent. Il me dit, attendez un instant, je vais voir s'il y a quelqu'un de compétent autour de moi pour répondre. Allô?
Mon abonné a accroché.
Raccroché?
Oui.
Ah bon?
Berlin est en permanence un enjeu d'influence. Dès 1948, Staline tente de l'isoler. Les alliés mettent en place un pont aérien de 11 mois. 10 ans plus tard, en 1958, Khrouchtchev tente un ultimatum. Le russe veut faire de Berlin une ville libre et démilitarisée. Il donne 6 mois à ce qu'il nomme les occupants de l'Ouest pour retirer leurs troupes.
Les premières réactions américaines à la note soviétique sont évidemment négatives. La nouvelle proposition, répète-t-on à Washington, aboutirait à consacrer le statu quo, c'est-à-dire à entériner la division de l'Allemagne.
L'ultimatum expire et rien ne se passe. Et les réunions diplomatiques s'enchaînent. Genève, mai 59.
Voilà, l'avion s'est arrêté et le pilote a mené son appareil avec tant de précision que le bord de l'aile survole nos microphones sur le bord de la piste.
The Soviet government is confident.
M. Gromyko a dit que la délégation soviétique aborde cette conférence avec tout le sérieux voulu et qu'elle espère vraiment qu'elle préparera la conférence des chefs d'État pour une paix mondiale.
25 réunions plénières plus tard, aucun accord en vue, mais un vrai petit air de détente. Les chefs des deux blocs, Eisenhower et Khrouchtchev, annoncent qu'ils vont se rendre visite, une grande première. Le russe d'abord. Il est accueilli à Washington en grande pompe en septembre 59. Il reste 14 jours en Amérique. Discours à l'ONU d'abord, puis grand numéro de charme télévisé à travers tout le pays. Monsieur K à Hollywood, au siège d'IBM, Monsieur K dans une ferme et pour finir, dans le ranch d'Eisenhower. Les deux chefs programment même une rencontre au sommet pour trouver un accord sur Berlin. Ce sera finalement quelques mois plus tard, en mai 1960, à Paris.
Europe 1, derrière le mur.
Vous avez écouté cette première partie, ce premier épisode de Bloc face à face. On retrouve Nikita Khrouchtchev dans un instant, avant cette conférence de Paris, et ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Vous allez l'entendre.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Tous les soirs, cette semaine, jusqu'à 20h, notre série exceptionnelle, Derrière le mur, sur Europe 1, et la suite de notre premier épisode sur l'émergence, tout de suite, des deux blocs autour des Américains et des Soviétiques.
Europe 1, 1955-1989, Derrière le mur. Deux blocs face à face.
Il y aurait comme un air de détente en ce début d'année 1960. Nikita Khrouchtchev vient de faire un long voyage officiel historique en Amérique. Il doit bientôt accueillir Ike Eisenhower en Russie. Mais d'abord, les voilà à Paris pour une rencontre au sommet. Au menu, le statut de Berlin et le désarmement.
Il est midi exactement et l'Ilyushin 18 de M. Khrouchtchev vient de se poser sur la piste. Eh bien, le revoici. Monsieur Khrouchtchev apparaît à la passerelle, il descend les marches, c'est le premier à sortir de l'avion. Monsieur Khrouchtchev s'approche du micro.
Столицу гостеприимной Франции, недавнее посещение которой оставило меня...
Mesdames et messieurs, il m'est très agréable de revenir à Paris, capitale de la France hospitalière.
Khrouchtchev est venu, il est bien là avec sa délégation. Les promeneurs parisiens se régalent.
Madame, c'est la première fois que vous voyez Monsieur Khrouchtchev ?
Oui, c'est la première fois. Le beau costume, là, c'est Gromyko, non ?
Non, c'est le maréchal Malinovski.
Oh, il est superbe. Il a un uniforme utile. Hein.
Pourtant, un incident vient de faire voler en éclats la coexistence pacifique. Quelques jours plus tôt, un avion espion américain, un Lockheed U-2, a été abattu en Russie. Il violait l'espace aérien et survolait des sites sensibles. Le pilote Gary Powers s'est éjecté, il est vivant et prisonnier. Khrouchtchev exige des excuses avant de participer à la moindre réunion. Et en attendant, il se promène ostensiblement à Paris et en banlieue parisienne, suivi de très près par Julien Besançon d'Europe 1, micro en main.
Il est sorti de sa propriété, puis il est allé jusqu'au pont de Brunois, là, au pont du Moulin. J'étais en train de faucher, alors j'y ai donné ma faux. Alors, il a essayé, mais il a tellement de ventre, il ne pouvait pas se baisser. Alors, c'est un peu dur.
Il avait un bon geste, il savait bien faucher.
Oui, oui.
Il est très sympathique.
Il est très sympathique.
Très aimable.
Si vous voyez la photo, il a voulu que je prenne la faux, que je mette la faux comme ça. Oui, oui, la faux est debout. J'ai oublié de prendre le marteau, là.
Le matin du sommet, c'est toujours le suspense. Khrouchtchev va-t-il, oui ou non, y participer ?
That is why we cannot speak about the resumption of the work of the conference.
La conférence n'a pas commencé, dit Monsieur Gromyko. Et Monsieur Vinogradov, pourriez-vous nous traduire ?
La conférence n'est pas commencé le travail. Voilà, c'est pourquoi elle ne peut pas continuer. Il doit commencer le travail.
Nous, avec le maréchal, nous allons faire une petite promenade en dehors de la ville. Mais où, ça c'est notre secret, notre petit secret militaire.
Et Khrouchtchev repart se promener, suivi du maréchal Malinovski, son ministre de la Défense et de tout son convoi.
Sur la route de Cézanne, M. Khrouchtchev descend de voiture car un arbre abattu obstrue la route. Il va sans doute voir les travailleurs qui sont en train de débiter cet arbre à coups de hache. Bonjour, dit M. Khrouchtchev.
Bousculez pas, s'il vous plaît.
Monsieur Khrouchtchev prend la hache.
Reculez-vous. C'est très bien, ça.
Reculez-vous.
On voit que c'est un homme qui sait travailler.
Allez. Monsieur Khrouchtchev s'amuse beaucoup.
Sam rabochim rabotal.
Oui, j'étais ouvrier moi-même.
Alors, mais ça se voit qui sait s'en servir d'une hache.
La séquence qui suit est inimaginable aujourd'hui. Nous sommes donc en mai 1960. Nikita Khrouchtchev sillonne la campagne française pendant que les chefs d'État alliés l'attendent à Paris. Et en toute simplicité, le reporter d'Europe 1, Julien Besançon, s'approche du leader russe et l'interpelle avec son micro.
Monsieur Khrouchtchev, monsieur le président, nous apprenons à l'instant que le général de Gaulle va vous envoyer des motocyclistes pour vous demander si vous voulez bien venir à l'Élysée et si vous voulez bien rentrer à Paris pour assister probablement à une séance de la conférence au sommet. Qu'allez-vous faire maintenant ?
Я ничего не знаю, кроме того, что вы мне сказали.
Vous êtes le premier à m'annoncer cette nouvelle, je n'en sais rien. Tant que les Américains ne disent tout publiquement qu'ils reconnaissent qu'ils ont commis un acte perfide contre l'Union soviétique, un acte d'agression contre l'Union soviétique, tant qu'ils ne s'excusent pas, nous ne pourrons pas.
Et Eisenhower ne s'excuse pas et Khrouchtchev quitte Paris.
Aucun État qui se respecte ne saurait accepter de participer dans des pourparlers internationaux que les partenaires cherchent à mener en menaçant de violer brutalement sa souveraineté. Au revoir, chers amis, les Françaises et les Français. Vive la paix !
Vive la paix !
Eisenhower succède à Khrouchtchev sur le tarmac d'Orly et au micro qui se tendent.
I share the disappointment of my colleagues.
Je partage la déception de mes collègues, mais également leur confiance. Car à cause de ce revers, nous, les alliés de l'Ouest, en particulier la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, sommes plus unis que jamais dans la recherche de la paix et de la justice dans le monde. L'Assemblée générale des Nations unies, en octobre, ne permet pas non plus d'avancer sur le désarmement. Le ton s'est considérablement durci. Jacques Tellier pour Europe 1, depuis New York.
Monsieur Khrouchtchev a fait ses adieux aux Nations unies hier soir en brandissant ses fusées. Nous les fabriquons à la chaîne comme des saucisses, s'est-il écrié, gesticulant, hurlant, trépignant, montrant du doigt ceux qui l'attaquaient. Vous, délégués qui somnolez dans vos fauteuils, réveillez-vous pendant qu'il est encore temps. Sinon, beaucoup d'entre vous ne reviendront jamais ici. Votez avec nous, sinon la guerre éclatera et vous serez écrasés, car nous sommes les plus forts. Mr. Khrushchev said we will bury you.
I don't subscribe to this point of view. En attendant, les soviétiques ne semblent pas si forts dans leur propre camp. Cette année-là, en 1960, près de 200 000 Allemands de RDA se sont réfugiés à Berlin-Ouest. Pour stopper l'hémorragie, Moscou se prépare en secret et Berlin est donc coupé en deux dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Claude Guillaumin, bientôt épaulé de Jean Gault, sont témoins de ces scènes surréalistes et les raconte sur Europe 1.
Je reviens de la Potsdamer Platz, à la limite des deux secteurs. Pour des milliers de Berlinois, ce quartier a été aujourd'hui un but de promenade. Les jumelles passaient de main en main pour voir ce qui se passait de l'autre côté. Des enfants prenaient des photos, mais les visages étaient soucieux. Pendant des heures, ces Allemands sont restés là, debout, silencieux, à regarder d'autres Allemands, les Vopos, les agents de la police populaire, planter des poteaux et tendre un réseau de barbelés. Certains de ces Allemands ont tenté d'engager la conversation par-dessus ces barrages que M. Willy Brandt, le maire de Berlin-Ouest, a comparé aux barrages qui ceinturaient les camps de concentration. Mais il n'y avait pas cet après-midi de conversation possible.
Éloignez-vous de la limite du secteur parce que vous vous trouvez maintenant sur le secteur démocratique, le secteur soviétique.
Ce qui frappe tout de suite, c'est la rapidité avec laquelle les barrages ont été installés. À 11h15 hier soir, une femme s'est réfugiée à l'ouest sans difficulté. Un quart d'heure plus tard, les contrôles étaient mis en place dans le métro et sur les routes. Une nuit a suffi aux soldats et aux policiers pour dresser leurs barrages. Les 100 derniers réfugiés qui sont arrivés au centre de Marienfeld cette nuit sont passés à la nage par les canaux qui séparent les deux secteurs.
Il y a quelques incidents, des Vopos sont conspués, mais c'est la sidération qui domine.
Arrivé de l'autre côté de la place, donc, j'ai voulu me rendre de façon désinvolte vers la bouche du métro aérien pour y acheter mon journal. Si Vopo était là, qui m'attendait, la mine menaçante. Ils m'ont demandé ce que je voulais, et alors là, j'ai appris que les deux stations du métro sur la place de Potsdam sont fermées définitivement. La circulation entre les deux parties de la ville ne s'effectuera plus que par 13 postes de contrôle bien définis. Les Allemands et les Berlinois de l'Est devront se munir d'un laissez-passer pour se rendre à Berlin-Ouest.
Deux jours plus tard, le No Man's Land est élargi le long de la barrière, l'isolement de Berlin-Ouest aussi.
500 mètres, c'est trop pour que les Berlinois de l'Ouest puissent envoyer des pierres ou narguer les policiers populaires. C'est trop aussi pour les lances d'arrosage de l'Est, toujours prêtes cependant à doucher les journalistes trop curieux. Du reste, les autorités de l'Est ont fait savoir cet après-midi que si les lances d'arrosage ne suffisaient plus, les Vopos tireront à vue sur tout provocateur, comme sur tout Berlinois de l'Est qui tenterait de passer à l'Ouest. Les Berlinois de l'Ouest peuvent encore aller voir ce qui se passe en secteur soviétique, mais il leur faut, s'ils sont en voiture, une autorisation spéciale qu'il est pratiquement impossible de se procurer. Vu de Paris, toutes ces mesures dont je viens de parler ne présentent sans doute qu'un intérêt local. Mais quand on est sur place, on se rend compte de leur importance, parce que ces mesures consacrent un peu plus chaque jour la coupure entre les deux Berlins et l'isolement de plus en plus grand en pleine zone soviétique de 2,5 millions de Berlinois de l'Ouest. Berlin-Ouest, c'est une île sur laquelle déferlent les vagues de l'Est, des vagues un peu plus hautes chaque jour.
Entre hier et aujourd'hui, les Berlinois ont fait preuve d'une certaine nervosité qui s'est manifestée par une ruée assez générale dans les magasins d'alimentation où le sucre, le pain, la farine et le lard firent très rapidement défaut dans plusieurs arrondissements de la ville.
Dans les jours qui suivent le bouclage et malgré les risques, les réfugiés de l'Est continuent à arriver et témoignent sur Europe 1.
Monsieur, quand et comment êtes-vous passé de Berlin-Est à Berlin-Ouest ?
Nous sommes durch einen Kanal gegangen.
Ils ont fui à travers un canal, à la nage. Il ne veut pas donner le nom du canal pour laisser à d'autres la possibilité de fuir par ce chemin.
Et quand ?
Und wann ?
Gestern um 13h30.
Hier à 1h30 de l'après-midi.
Donc au moment où les mesures étaient déjà prises, où il n'y avait plus moyen de passer. Est-ce qu'il a de la famille ?
Ja. Haben Sie Familie ?
Ja, eine Tochter und eine Frau.
Oui. Une femme et une petite fille.
Sie sind mit mir zusammen rübergeschwommen über den Kanal. Mit Hilfe von
nagé avec lui dans le canal avec l'aide de Berlinois de l'Ouest.
Pourquoi est-ce qu'il a attendu si longtemps pour passer de l'autre côté?
Ils n'avaient pas l'intention de fuir, à proprement parler, mais ce sont les mesures prises dimanche qui l'ont poussé à fuir. Il n'avait pas l'intention, dit-il, de passer sa vie dans un camp de concentration.
L'étau va donc se resserrer pour que le mur devienne de plus en plus étanche.
Ce matin à 6h, un appel a été lancé sur tous les émetteurs de la République démocratique allemande à l'intention des jeunesses communistes qui ont été invitées à s'engager ou dans l'armée populaire, dans la police, ainsi que dans la production pour prêter main forte aux forces mises sur pied qui ne suffisent plus à la fois pour tenir le blocus berlinois et surveiller la frontière entre la République démocratique allemande et l'Allemagne fédérale. Quelques minutes après l'appel lancé ce matin, Berlin-Est annonçait que des milliers de jeunes gens se tiennent déjà à la disposition des forces militaires. Ici Jean Gault qui vous parlait de Berlin, Europe numéro 1.
Près de 2 ans plus tard, en juin 63, le jeune président Kennedy viendra apporter son soutien en Europe. Il effectue une tournée triomphale en Allemagne, notamment dans la ville symbole, bien sûr, l'enclave de Berlin-Ouest, avec ce message d'espoir comme un slogan politique. En homme libre, Kennedy est fier, lui aussi, d'être berlinois.
All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
Et voilà pour cette véritable plongée dans l'histoire de chaque côté du rideau de fer. Demain, ne manquez pas des fusées et des missiles, le deuxième épisode de cette série exceptionnelle, n'est-ce pas Sophie ?
Oui, et c'est un épisode qui est piloté par Didier François qui fait aussi partie de l'équipe pour suivre deux courses parallèles et complètement liées, la course à l'espace qui sous-tend la capacité à chacun de projeter des armements et notamment nucléaires.
Ça s'appelle Derrière le mur, c'est tous les soirs, cette semaine, de 19h30 à 20h. Retrouvez les meilleurs extraits sur europe1.fr et l'intégralité sur l'application Cybelle. Europe 1. Émilie Mazoyer, bonsoir à vous.
Bonsoir mesdames, quel moment génial. Vivement demain pour la suite.
Et vivement là tout de suite, vous êtes évidemment aux manettes.
Alors je vous emmène ce soir pour 2 heures de musique, ça vous le savez, mais on va faire un grand crochet par le Brésil avec une artiste que j'adore qui s'appelle Flavia Coelho.
Mãinha tá no paraíso. Mãinha tá no paraíso.
Elle a sorti le 18 octobre un nouvel album. Bon bah comme d'habitude, c'est de la merveille hein. Alors on va en parler avec elle tout à l'heure, elle sera notre invitée.
Et elle nous amène du soleil avec vous Émilie Mazoyer. Merci à vous, c'est en direct à suivre. Très belle soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. Anissa à demain, même endroit, même heure, 18h 20h.
18h pile. À demain, c'était Nathalie Lévy sur Europe 1. Merci à tous.